2 minutes de retard. Bon, avec le vent, on va essayer de rattraper. Donc, on va essayer de réfléchir sur ce sujet. Mais pour essayer de comprendre, il faut d'abord une image qui va nous faire gagner beaucoup de temps. Vous voyez, il y a... pas de soucis, pas de souffrance. La meilleure manière d'aborder les...
problèmes.
Les difficultés de la vie. D'accord. C'est ça, c'est le thème. Donc maintenant, il y a la notion du puzzle. On a déjà expliqué plusieurs fois, Kol HaOlam HaShalim, le monde entier sont que des exemples. Et Hachem, il a créé le monde physique pour qu'on comprenne le monde spirituel et entre les deux, le monde psychologique. Alors c'est intéressant de réfléchir qu'est-ce que c'est un puzzle. Alors comment on fabrique un puzzle? On prend une feuille de carton qui fait 2 mm d'épaisseur. Après, on prend une belle image, un poster qui fait la même taille, on le pose dessus. Après, on le colle. Après, on amène une presse. Et cette presse, elle découpe en une seule fois tous les morceaux. Paf! Elle coupe tout. Après, on réunit les morceaux, on les met dans une boîte. On les plastifie, on les met dans un magasin. Et sur la boîte, il y a le dessin. Hein. Il y a la même photo que... La personne, elle vient, elle dit, j'ai choisi ce puzzle. Elle achète le puzzle. Et ensuite, elle va essayer de monter ce puzzle. Alors maintenant, le puzzle, il fait 12 000 pièces. Ça veut dire que ça va lui prendre 6 mois pour faire ce puzzle. Alors le vendeur, ça fait 20 ans qu'il vend des puzzles. Alors un jour, il attrape le client. Il lui dit, monsieur, si vous aimez tellement cette image, pourquoi vous achetez le puzzle? Achetez l'image. Achetez le poster. C'est plus joli. Vous n'allez pas mettre 5 mois pour le faire. Achetez directement. Et la logique, c'est quoi? La vie, elle ressemble à un puzzle. Maintenant, Hachem, au départ, il a tout le puzzle devant lui. Il découpe en petits morceaux, il les met dans une boîte qui s'appelle la vie. Et après nous, on doit remettre de l'ordre à l'intérieur du puzzle. Maintenant, il y a plusieurs manières. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent toutes les pièces et ils regardent. Celle-là, elle va avec celle-là, celle-là avec celle-là, celle-là avec celle-là. Il y en a, non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent toutes les pièces du puzzle, ils sortent une, ils regardent la deuxième. Alors, ils jettent une, ils perdent l'autre. Celle-là, ils ne la regardent pas, ils n'arrivent pas. Après, il y a des gens, ils veulent absolument que ça rentre dans le puzzle. Mais ils sont énervés de chercher. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de faire rentrer à coup de marteau. Oui, si je te dis que tu vas m'aimer, mais je ne t'aime pas. Tu vas m'aimer. Les enfants, ça marche comme ça. Le business, ça marche comme ça. Mais en vérité, nous, on sait que si le puzzle, la pièce, elle est à sa place, elle va rentrer pile. Elle va être exactement à sa place. Alors, comment on appelle ça? On appelle ça l'harmonie du monde. En vérité, le monde, il est harmonieux. En vérité, la vie, elle est harmonieuse. Maintenant, le problème, c'est que nous, on n'a pas la patience de mettre les pièces à leur place ou d'accepter que le bon Dieu, il nous donne les pièces au fur et à mesure de la vie. On s'énerve. On veut vite la pièce. Mais elle va venir. On veut que l'enfant, il soit grand. Ça va venir. On veut que le couple, il soit épanoui. Mais tu t'es marié avant-hier. Ça prend du temps. C'est des choses qui prennent du temps. Et cette notion-là, qu'est-ce qui va faire que quelqu'un il va trouver la force de pouvoir attendre et de pouvoir construire le puzzle au fur et à mesure? Alors il y a une logique là-dedans qui est extraordinaire, qui est la logique du poids et du contrepoids. Vous savez les petites balançoires qu'il y a dans les jardins? Il y a une planche comme ça, et puis on met un enfant ici, et de l'autre côté on se met... Alors ça fait le contrepoids. Alors là, imagine d'un côté tu mets un homme de 60 kg, et de l'autre côté tu déposes brutalement 5000 tonnes. Qu'est-ce qui va se passer? La personne, elle va aller sur orbite, directement sur la Lune. Oui. Pourquoi? Parce que le poids ne correspond pas au contrepoids. Il y a le poids, le contrepoids. Et bien, cette balance-là, en vérité, c'est quoi? C'est l'homme et la réalité. Maintenant, la vie, elle a un certain poids. Et l'homme, il a le contrepoids. Maintenant, nous, on voudrait décider du poids de la vie. On ne décide pas du poids de la vie. Parce que les événements qui vont nous arriver, on ne les connaît pas. Par contre, ce que nous, on peut faire... c'est travailler le contrepoids, c'est-à-dire la personne qui va accueillir les événements. Ça, on peut le faire. C'est notre travail à nous. C'est la différence entre la réalité et nous. Il dit, cette logique-là, elle dépend de comment est-ce que la personne à l'intérieur d'elle-même, elle est construite. Comment elle aborde les éléments, comment elle aborde les événements, comment elle les accueille, et qui c'est qui les accueille. Il dit, c'est ça ce qu'on appelle en hébreu la menoucha, la sérénité. Oui. Ah, maintenant quelqu'un va dire, mais c'est pas facile, parce qu'on est bouleversé par des événements, parce qu'il y a toujours des choses nouvelles, parce que les enfants ils grandissent, parce que le mari il change, parce que la femme elle grossit, enfin je prends un exemple. Oui, donc les choses elles changent, les choses elles bougent. Alors comment quelqu'un il va trouver la sérénité, puisque dès qu'il s'est habitué à une situation, hop, la situation elle change. Ça change tout le temps. Mais c'est normal. Parce que dès que tu as posé une pièce de puzzle, tu t'occupes d'une deuxième, et d'une troisième, et d'une quatrième. Après, ça va être les enfants, après, ça va être les petits-enfants. Tu vois bien que chaque chose, elle vient à une certaine étape, et elle trouve une certaine place. Alors, comment on arrive à atteindre cette menoucha? Comment on arrive à réaliser cette chose? Alors, on avait déjà donné cette référence. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu de sortir les Bnei Israël d'Égypte. Alors Moshe, il a dit, comment est-ce que je vais te nommer aux yeux des Bnei Israël? Comment je vais te donner? Quel nom je vais te donner? Alors il a dit, tu m'appelleras Eye Asher Eye. Ça veut dire Eke Asher Eke. Je serai celui que je serai. Ça, c'est un des noms d'Hachem. Hachem, il a plusieurs noms d'Hachem. Et là, c'est un des noms d'Hachem. Je serai celui que je serai. Et là-bas, le Sforno, il explique, il donne la définition, on en a beaucoup parlé dans le premier livre, pour ceux qui l'ont lu, pour les autres, ils viendront, je leur tirerai les oreilles juste après le cours. Donc, c'est quoi? C'est, il dit le Sforno, il dit, c'est quoi? Eke Asher Eke, je serai celui que je serai. Il dit, Ove Tamid, un présent perpétuel, Mitzad Atzmo, Ve'alinia Dechad, par rapport à lui-même, et sur un seul sujet. Maintenant, quand on définit bien les mots du Sforno, qui prendrait a priori 2 ou 3 jours, mais on va essayer de faire ça en lumière. Si on définissait bien les mots, alors on a tout compris à l'intérieur. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est un OV Tamid? Maintenant, on est en train de parler d'Hachem. Et on dit d'Hachem qu'il est un OV Tamid. Ça veut dire qu'il a un présent perpétuel. On a expliqué déjà plusieurs fois que le mot OV, il veut dire le présent et il veut dire être aussi. Donc maintenant, quelqu'un, il doit vivre au présent perpétuel. Et en même temps, quelqu'un, il doit être de manière perpétuelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne soit pas instable, qui ne soit pas en fonction des situations, en fonction des gens, en fonction des bouleversements. C'est la différence aussi entre les adultes et les enfants. Qu'un enfant, il est toujours en réaction. Alors qu'un adulte, il est en décision. La réaction, c'est comme le ballon. On tape à gauche, tu pars à gauche. On tape à droite, tu pars à droite. Tiens, ballon. Oui. Mais si toi, tu es une personne, oui, tu n'es pas en fonction de ce qui se passe. C'est qu'il se passe quelque chose et toi tu prends la décision d'adhérer dans ce choix ou d'adhérer dans ce choix. Sur le modèle d'Hachem. Parce que même les commentaires ils expliquent quand c'est marqué Hachem il est en colère ou Hachem il rit ou Hachem il aime ou Hachem il a la haine. Hachem n'a pas de sentiments, ça n'existe pas. Parce que si on dit que Dieu il a des sentiments, ça veut dire qu'il est pris par des sentiments, ça veut dire qu'il a des surprises. Mais Dieu ne peut pas être bouleversé, c'est impossible. Oui? Alors, c'est quoi la logique? C'est que devant lui, il a des qualités. Et lui, il décide de rentrer dans cette qualité ou dans cette qualité. C'est des middle, c'est des attitudes. Exactement pareil que normalement, jamais un homme ne peut être en colère. Jamais. Mais il peut jouer la colère pour se donner un certain effet. Oui. Un homme ne doit pas être bouleversé, mais il peut se sensibiliser à une situation. Mais il n'est pas pris par la chose. Je ne sais pas si vous sentez la différence. Oui. Parce que bouleverser, ça veut dire qu'il est détruit. Ça veut dire qu'il est remis en cause. Il dit, mais tu vas dire, mais c'est pas facile parce qu'on est quand même sensible. On est quand même des êtres humains. On a un cœur. C'est pour ça que la nuance, elle est qu'il y a des parties chez nous, bien sûr, qui vont être bouleversées parce qu'on est quand même des êtres humains. Mais il y a un endroit en nous qui ne doit jamais bouger. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. Il y a un endroit en nous qui ne doit jamais bouger. Au centre de nous-mêmes, il y a un endroit qui, lui, n'est pas sujet au bouleversement, qui n'est pas sujet aux événements, qui n'est pas sujet au chaud ou au froid, qui n'est pas sujet aux compliments ou aux reproches. Il n'est pas. Et cet endroit-là, ça va être le point de référence. Maintenant, même si cet endroit-là, il est bouleversé, ça veut dire qu'on n'a plus de référence. Donc, on est entièrement soumis aux événements et c'est là que ça devient dangereux. Ça va? Et de référence. Approchez-vous, ça ne me dérange pas. D'accord? Et cette référence, c'est quoi? C'est le contrepoids. Le contrepoids, c'est qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a un endroit qui ne doit pas bouger. Adam Lozaz. Oui, il ne bouge pas. Il ne bouge pas à l'intérieur. Ben ça, attention, ne croyez pas que c'est simple. Ça se construit, ça prend des années. D'accord? De développer cet endroit, de construire cet endroit, de valoriser cet endroit, de remplir cet endroit pour qu'il y ait le contrepoids. Parce que sinon, alors toute la vie, ça va être fonction des humeurs. Il fait beau, il fait moche. Ça va être fonction des nerfs. Ça va être fonction de la fatigue. Ça va être fonction des gens. On ne peut pas vivre comme ça. C'est impossible. On ne peut pas. quand on a des quand on n'a pas de responsabilité, c'est-à-dire que on est une feuille morte dans une tempête de neige, c'est pas grave. Tu dis t'es ici, t'es là, ça change rien. Mais quand on est un père de famille, une mère de famille, quand on est responsable d'un groupe de personnes, quand on est responsable de soi-même, on peut pas, on peut plus se permettre d'être cinglé. Je sais pas si vous me suivez.
D'être
cinglé. Ça marche pas. Loco. Loco, loco. On va y arriver. D'accord ? On peut pas se permettre d'être fou. Parce que même d'être fou, c'est un luxe. Les gens disent, ah, tu m'as rendu fou. Eh, mais il faudrait que tu aies les moyens d'être fou. Parce que d'être fou, c'est un luxe. Comment tu peux te permettre d'être fou ? C'est comme si quelqu'un est en train de rouler en voiture, il est fatigué, il dit à ses enfants qui sont à l'arrière, allez les enfants, faites-moi de la place, je viens m'allonger à côté de vous. Il dit, mais papa, tu conduis. Le conducteur n'a jamais le droit de dormir. Maintenant, on est tous conducteurs de quelque chose, au moins de toi. Alors, on le dit en français, alors, regarde comment tu te conduis. Comment tu te conduis, c'est toi le chauffeur, ouais. Après, comment tu conduis ta famille, après, comment tu conduis ton entreprise, après, comment tu conduis ton corps, regarde où il t'emmène ton corps, regarde ce que tu es en train de faire de ton corps, regarde-le. Cette logique, c'est quoi? C'est qu'il y a un espace à l'intérieur de la personne qui ne doit pas bouger. Ça, ça s'appelle ovétamide. Ovétamide, c'est un être perpétuel, c'est un présent perpétuel. Maintenant, le problème, encore une fois, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on va générer chez nous un point de référence qui sera tellement fort que, quelles que soient les intempéries à l'extérieur, on gardera toujours la même perpétuité. C'est pas facile. C'est dur. C'est vrai ou non?
C'est impossible.
C'est impossible. Et pourtant, c'est le cours de ce soir. Bon. C'est vous qui avez choisi le sujet. Hein.
Vous pouvez répéter la question que vous
juste maintenant? C'est comment on va construire ce contrepoids à l'intérieur, cet espace de sérénité qui est tellement fort que malgré les intempéries, malgré les changements, malgré les agressions, on ne va pas bouger. Encore une fois, je n'ai pas dit qu'entièrement on ne bouge pas. Ça, c'est des gens qui sont en marbre. Ouais. Donc il y a toujours une partie, on va dire celle qui est accrochée à la réalité, celle qui subit, celle qui va vibrer. C'est normal, il y a la susceptibilité, il y a les nerfs, il y a l'orgueil. Mais ça, en vérité, c'est la partie superficielle de la personne. Mais si quelqu'un il a construit son intériorité, il y a une partie en lui, il y a une partie en lui qui ne doit pas bouger, ou en elle. Oui. Alors maintenant, nous, on va réfléchir. Comment est-ce qu'on fait pour construire cette personne-là? Maintenant, il faut continuer le sport. Donc il a dit, Ové Tamid, un présent perpétuel, un être perpétuel. On sait que la Neshama, elle est toujours au présent. Parce que la Neshama, elle n'est pas soumise au temps. Donc c'est un présent perpétuel. La Neshama, elle n'est pas soumise aux événements. La Neshama, elle n'a pas de surprise, puisqu'elle connaît l'avenir. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que quelqu'un il peut profiter de sa Neshama pour atteindre la sérénité de la Neshama, même s'il n'a pas la connaissance de la Neshama? Vous avez suivi? Bon, je répète pour les gens qui n'écoutaient pas. Est-ce que quelqu'un il peut profiter de sa Neshama pour non pas atteindre la connaissance de la Neshama, c'est pas possible, mais pour attendre la sérénité de la Neshama. Par exemple, quand vous êtes à côté de quelqu'un qui vous rassure, vous n'êtes pas devenu cette personne, mais vous profitez de son influence. Elle vous rassure. Comme l'enfant, il est rassuré par la présence du père. Et bien, est-ce qu'un homme, il peut être rassuré par la présence d'Hachem?
S'il le sent, oui.
Et ça dépend. Et oui, ça dépend de sa croyance. Ça dépend de sa émouna, ça dépend de son bitachon. Oui. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de conséquences dans le fait d'être proche d'Hachem, mais nous on va s'intéresser à cette conséquence qui s'appelle la sérénité du Baal HaBitachon. Comme ça il dit le Sabbat Mislovodka, là celui qui a le Bitachon, il a une sérénité, il a un Nahat qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il sait que la réalité, elle est proche, la réalité elle est adaptée, la réalité elle est exactement ce qu'il a besoin qu'elle soit, elle est adaptée. Et cette dimension là, c'est qu'elle est déjà bien dans sa tête. C'est-à-dire qu'il a créé un espace où le bouleversement il est plus loin. Il dit cet espace il est bien, et dehors, c'est moins bien. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est jusqu'où on peut repousser le bouleversement. Exactement comme quand tu es dans une tempête de neige, ça se... Tu rentres chez toi, tu fermes la porte. C'est bon, tu vois, on n'entend plus rien. Alors, tu as créé un espace de tranquillité. La maison, c'est un espace de tranquillité. Dans ta tête, tu dois avoir aussi un espace de tranquillité. On appelle ça en français un espace de recul. Oui, par exemple, tu es pris dans un balaga, dans un truc. Tu dis, écoute, attends, 2 minutes, j'ai besoin de 2 minutes. Ah, tu fais comme ça. Bon, alors, vas-y, refais les calculs. C'est-à-dire que tu as pris un espace de recul. Tu es rentré dans un endroit qui t'a fait sortir de la tempête. C'est... Recul. Tu recules. Un peu comme la prière. Tu sais que la prière, c'est un phénomène bizarre. Il y a une grande discussion. Est-ce que la prière, elle doit être priée tous les jours? Ou la prière, elle doit être priée, be'et Sarah, au moment où quelqu'un il a un problème? Celui qui dit qu'on prie quand on a un problème, nous on croit que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prie quand on a un problème, parce qu'on a une motivation à prier puisqu'on a un problème. Ça va? Donc quand quelqu'un il a un problème, il va prier pour quoi? Pour son problème. Ça va? Eh ben non. Parce que si vous regardez le Shulchan Aruch, c'est marqué que quelqu'un, quand il doit prier, il doit enlever toutes ses pensées de la tête. À plus forte raison, ses problèmes. Allez, je comprends pas. Moi, je prie parce que j'ai un problème. Mais pour prier, il faut que j'oublie mon problème. Parce que si je pense à mon problème, c'est-à-dire quoi, j'ai dérangé le bon Dieu pour mon problème. Eh bien, bizarrement, quand je ne m'occupe pas de mon problème, le bon Dieu s'occupe de mon problème. Alors, je vous donne une logique. Très simple. C'est que quand quelqu'un prie, en vérité, le fait de s'occuper de Dieu, ça l'oblige à prendre une distance avec son problème. Il sort de son problème. Il sort de son problème. C'est pas grave. Parce qu'en vérité, il n'a pas besoin de beaucoup. Parce que qu'est-ce qu'il a besoin, l'homme? L'homme, il a besoin... Il a besoin du pouvoir de la décision. Et le pouvoir de la décision, c'est quoi? C'est la sérénité. Maintenant, combien de temps il prend une décision? 1/100 de seconde. Donc, combien tu as besoin de recul pour avoir 1/100 de seconde? Tu as besoin 1/100 de seconde. C'est bien, non? Parce que les gens, ils croient qu'il faut se reposer pendant 20 ans, il faut réfléchir pendant 10 ans. Il faut... Mais c'est faux. C'est faux. Rabotai, la vie, elle se joue en 1/100 de seconde. En 1/100 de seconde. On l'avait expliqué, vous rappelez, l'impulsion d'être, le choix, l'impulsion d'être dans le choix. Vous rappelez ça ou non? Pas tellement. Bon. Comme il y a des nouveaux, des absents, et ceux qui sont présents et qui sont absents, donc je vais répéter. On a dit qu'il y a le physique. Après le physique, il y a le psychique. Et après, il y a la neshama. Maintenant, la fin du physique, du gouffre, c'est le début du défesh, du psychique. Et la fin du psychique, c'est le début de l'âme. À cet endroit-là, on met la pointe du compas, dont on a parlé plusieurs fois. Cet endroit-là, c'est de là-bas qu'elle part la première impulsion. C'est-à-dire, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, que tu veux dire quelque chose ou que tu veux penser quelque chose, l'impulsion première qui va faire que tu vas dire ou que tu vas penser ou que tu vas faire, elle part de là-bas. Ça, c'est l'endroit qui est khashuv. C'est ça l'endroit qui est important. Et cet endroit-là, c'est l'endroit de la mahashava. Et sauf ma'asé, be mahashava tekila. La fin d'un acte est dans la pensée en départ. Et la pensée, c'est à cet endroit-là que ça se passe. Je ne parle même pas de la pensée consciente. Je ne parle pas de quelqu'un qui a réfléchi. Vous savez, on a dit Rochev Arbé. Non, c'est pas intéressant. C'est l'impulsion qui vient avant la pensée. C'est-à-dire au moment où il y a une telle concentration de ce qui est important pour toi que ça crée une impulsion. Après qui va devenir une pensée, après qui va devenir une décision, et après qui va devenir un acte. L'impulsion première. Sauf ma'asé, mais ma'ashava, c'est rien. La première. Et c'est quoi ma'ashava? C'est khashuv. Parce qu'est khashuv pour toi, mais vraiment, c'est pas genre, vous savez, c'est important. Hein? Non, ce qui est vraiment khashuv pour toi, c'est ça qui va se passer. C'est pour ça que quand tu as rendu une chose khashuva, tu sais que ta prière, elle va être entendue. Donc la vraie difficulté, c'est de vivre ce que tu penses. Et Goïm, il appelle ça vibrer. D'accord. Et nous, on dit être en accord avec la chose. C'est l'impulsion première. Cette impulsion première, elle dure 1/100 de seconde. C'est comme quand les gens, tu dis, écoute, parle à ton fils. Mais j'arrête pas de lui parler. Non, mais parle-lui. Mais j'arrête pas de lui parler. Mais parle-lui. Alors tu dis, bon, alors qu'est-ce que je fais alors? Alors je vais lui parler. Ah, d'accord. Ah, maintenant tu dis, bon, d'accord, j'ai compris alors. Je vais lui parler. Ah, maintenant qu'il lui parle, l'autre il écoute. Mais alors, qu'est-ce que j'ai fait avant? Avant, t'as fait du bruit, tu lui as pas parlé. T'as fait du bruit, tu t'es énervé, t'as réagi, t'as vu le bulletin, tu t'es truqué, le prof t'a fait une remarque, t'avais les nerfs, t'as pas parlé. Parler, c'est dire, voilà, je vais. T'arrêtes tout, tu sais quoi, tu prends ton corps, ta neshama, ta volonté, ton amour, ton ambition, et tu dis bonjour. C'est comme ça qu'il faut faire.
C'est pas facile. Je sais pas si vous me suivez.
C'est pas facile. Parce que la personne, elle n'arrive pas à se concentrer. Elle n'arrive pas à se recentrer. Alors comme elle n'est pas recentrée, elle est dispersée, alors son discours aussi il est dispersé. Alors il ne fait pas d'effet. C'est pour ça qu'on dit en français, les gens qui s'entendent sont des gens qui s'écoutent. Vous savez, quand vous voyez un couple, vous dites, oh ben ils s'entendent bien. C'est quoi ils s'entendent bien? Ça veut dire qu'ils ne sont pas sourds. C'est ça qu'on dit. Vous vous entendez bien? On s'entend très bien. Ah, vous n'êtes pas sourd? Oh, on s'entend très bien. Ah d'accord. C'est bizarre. Parce que alors, comment on fait avec les aveugles, puisqu'ils ne peuvent pas se voir? Alors ils ne peuvent pas se voir. Ah, les aveugles, ils ne peuvent pas se voir. Non, ils se voient très bien. Ah, mais ils se voient alors, mais ils ne sont pas aveugles. Oh, ils sont aveugles, mais ils arrivent à se voir. Et les autres? Mais eux, ils s'entendent. Non, je sais pourquoi ils s'entendent. Parce qu'ils s'écoutent. Donc ça veut dire qu'il y a une attention qui est posée. C'est quoi une attention? C'est que tu es rentré dans cette réalité maintenant. Quand tu parles à quelqu'un, tu dis, écoute, je sens que tu ne m'écoutes pas. Après, tu dis, ah oui, excuse-moi. Ouais. J'étais pas concentré. Ouais. Tu es en train de faire le deal avec le type. Le type est là, en train de regarder la serveuse. Puis il dit, écoute, maintenant, on parle. Ah oui, excuse-moi. Et c'est comme ça la vie. La preuve, c'est que les gens qui disent, il y a une expression très bizarre en psychiatrie, ils te disent, bon, je me suis calmé et j'ai retrouvé mes esprits. Genre, tu les avais perdus dans l'ascenseur maintenant. Où ils étaient tes esprits? Ouais. Ils étaient ailleurs. L'esprit, il est revenu, l'esprit. Ouais. Comme la colère. Vous avez dit, la colère, c'est pareil. La personne, elle dit, oh, vous savez, j'étais hors de moi. Ah bon? Et quand tu es hors de toi, tu es où? Quand tu es toi, je sais où tu es. Mais quand tu es en dehors de toi, tu es où? Eh bien, ne rigolez pas, c'est très très sérieux qu'il y a beaucoup de gens qui sont en dehors d'eux-mêmes. Ils ont leurs ambitions ici. Ils ont leur souvenir là-bas. Ils ont leur peur. Ils ont leurs doutes, ils ont leur espoir, et ils ont la voisine. Donc ils sont dispersés. Ouais, il faut remettre les morceaux ensemble pour arriver à donner un moment qui soit clair. Maintenant, je lui ai dit que, et je pense que. Maintenant, on ne peut pas le faire si on n'a pas de référence. C'est pour ça qu'on appelle ça en hébreu « Ishuv Adat ». Maintenant, l'esprit il est reposé. Ouais, et c'est aussi, il chauffe, c'est aussi installé. Tu sais, quand quelqu'un est installé, c'est pas comme quelqu'un est au passage, par dans une gare, t'es dans une gare, tu rentres comme quelqu'un dans une gare. Vous habitez ici? Non, ben non, je n'habite pas ici, je suis de passage, c'est une gare. Et ben il y a des gens, chez eux, ils sont dans une gare. Ils sont là, mais ils se disent, bon ben quand ils auront grandi, je vais partir. Donc ils sont pas là en réalité. Comprenez-vous? Ils sont pas là. Dans le business, ils sont pas là. Ouais, moi j'ai fait ce métier, mais en vérité, bon, c'est parce que c'est mon frère, sinon j'aurais fait docteur. Ah bon, alors d'accord. Donc t'es pas ici en vérité. Dans chaque domaine, ils sont pas là. Même cette femme-là, ils sont mariés, bon, elle lui a fait le coup de la panne, elle a fait genre, elle est enceinte, finalement elle n'était pas enceinte. Et ben, jusqu'à maintenant, il. Donc il n'est pas là non plus. Ah là, il n'est pas dans son mariage. Son rôle de père non plus, lui, il voulait pas d'enfant, lui, il voulait sa femme pour lui. Oh, t'as commencé, un bébé, deux bébés, trois bébés. Oh! Donc il n'est pas dans son rôle de père, pas dans son rôle d'homme, son rôle de juif, on lui a imposé. Soit parce que ses parents lui ont imposé, soit parce que le rabbin lui a fait peur. Donc lui-même, il n'est pas là non plus. Alors, il est où alors? Je veux dire pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'espace de référence. Il n'a pas d'espace de référence. Quelqu'un maintenant, il a fait une bonne prière. Il a fait une bonne prière une fois dans sa vie. Alors maintenant, il va comparer les prières qu'il va faire avec cette prière. Quelqu'un, il a eu le shalom avec sa femme, le vrai shalom. Pas le shalom de, bon écoute, ferme-la, moi si je me la ferme, ça va aller. Allez, souriez les enfants, on va la voir. C'est pas ça le shalom. Le shalom, ça veut dire la communion, la compréhension. On a vécu des choses ensemble, on a vivre ensemble, on a une seule neshama. Le sang, il fait comme ça, il fait des deux côtés. Quand t'as goûté ça une fois dans ta vie, même pendant une seconde, après t'as une référence. Donc quand il vient le satan, il dit, Mechila, j'ai goûté. T'as compris ou non? C'est une référence. Quand une fois tu as bien travaillé, tu t'es donné à fond, tu as sué et tu as produit quelque chose de bien, tu connais la différence entre travailler et glander, tu as une référence. Et bien cette référence, c'est ton contrepoids. Quand tu as entendu de la vraie Torah, tu ne peux pas te laisser avoir par du baratin. Mais il faut aller dans des endroits purs, avec la bonne Guémara, la bonne pensée juive, un bon pshat, bien riche, bien émettre. Après, tu ne peux plus tomber dans le piège des clowns ou là,
disent, mais là, c'est... Quand même avec les Guarantes et les Midrashim, mais... tu sens qu'il n'y a rien dedans. Rien. C'est goûté. Le vrai problème des gens, c'est qu'ils n'ont pas goûté. Je vois même dans le Shalom Bayit, des gens, je lui dis, mais vous voulez divorcer. Mais vous n'avez jamais goûté. Vous n'avez jamais goûté. Celui qui a goûté le Shalom, c'est comme une drogue, il ne peut plus. Il ne peut plus, même si pendant une seconde il s'engueule avec sa femme, il est mal. Il n'est pas bien, il faut que je lui parle, il faut qu'on s'arrange. Il a un arma. Pourquoi? Parce qu'il a goûté. Parce que si dans le négatif, celui qui a goûté la drogue, il ne peut plus s'en passer, alors pourquoi dans le positif, celui qui aurait goûté, il peut se passer? Et là, il peut se passer, ce qu'il n'a pas goûté. Vous voyez cette logique-là? Poids contre poids. Eh bien, toi, tu dois construire à l'intérieur de toi cet espace de référence. Comment on appelle cet espace? Ça s'appelle la menorah. Ça veut dire que c'est un bien-être, c'est une douceur, c'est un plaisir qui est construit, qui est atteint et qui est à l'intérieur. Ça va être ta référence. Donc il va se passer des choses dans la vie, c'est vrai, mais tu ne vas pas bouger toi. Ah, tu dis, mais c'est pas évident, au moins au niveau épidermique, ça t'énerve.
Oui.
Ça t'énerve, mais tu vois arriver les choses. C'est la distance que tu prends. Je vous donne l'exemple des 30 étages. L'immeuble de 30 étages. Non. C'est comme si vous êtes en haut d'un immeuble de 30 étages. Donc je vous rappelle, 30 étages, ça fait 100 mètres. Vous êtes en haut de l'immeuble, et en bas, il y a un type qui est en train de faire comme ça. Alors il y a quelqu'un qui vient et qui dit, tu sais le type en bas qui gesticule, il est en train d'insulter ta mère. Ça ne tient rien. Vraiment, t'es pas énervé. À la limite, même calmement, tu vas prendre un frigo, tu vas le jeter. Mais gentiment, sans animosité, sans rien, tu te dis, bon... On va écraser un cafard. Ça t'énerve pas? Pourquoi? Tu l'entends pas? Tu as 30 étages de recul sur lui. Ça va? Comme si, ou non? Voilà. Maintenant, quand un brel, au feu rouge, il insulte ta mère, comment ça se fait que tu le vis mal? Mais il y a... Tu as 30 étages. Mais c'est un dead. C'est un dead de la rue. C'est un mangeur de frites et de football. Comment ça se fait que ça te touche? Tu dis oui, mais tu sais qu'il a insulté ma mère. Les chiens, ils aboient. Les arbres, ils font du bruit. Les caniveaux, ils coulent. Et lui, il parle. Quel est le problème? Ah, mais tu te rends pas compte. Ça veut dire quoi? Comment il m'a parlé? Toi, mais t'es pas dans sa planète.
On est au même niveau.
T'es pas dans sa planète. Une fois, à Shabbat... Les enfants, ils ont invité un copain à eux. Alors le copain, il a raconté, il dit, vous savez, quelqu'un, il m'a énervé, il m'a mal parlé. Je suis descendu, je l'ai cassé la tête, je lui ai brassé la tête. J'étais comme ça, je l'ai regardé. J'ai dit à mon fils, il est goy, ton copain? Il me dit, non, il est juif. Je dis, excuse-moi, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ça, toi? Il m'a dit, mais rave, il m'a mal parlé et tout ça. Je suis sorti, je l'ai massacré. Je dis, moi, j'ai 48 ans, je me suis jamais battu de ma vie. Pourquoi? J'ai rien à voir avec ça, moi. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Mais c'est un autre monde. Comprenez ou non? Il y a les nerfs, il y a la violence, après il y a lever la main, après il y a baisser la main, après il y a taper, après il y a sentir la mâchoire du type qui fait crrr. Après il y a que ça t'excite, après que tu vois le sang, tu vas recommencer, après tu te défoules, tu deviens un animal, et après tu lâches tes nerfs comme un chien fou. Mais tu as 30 étages de ça, toi. C'est pas possible. Comprenez ou non? Tu as ton respect de toi-même, le respect de la personne, la Torah, les principes, les valeurs, l'éducation, la non-violence, la perpétuité, le respect de l'autre. Oh, combien avant d'arriver à être un chien? Mais si toi, on enlève la laisse, tu deviens un chien. Eh bien, peut-être que tu étais un chien depuis le départ. Comprenez cette logique ou non? Le type dit, oh vous savez, il m'a énervé, je l'ai frappé. Tu me parles bien de la mère de tes enfants là. Non, je dis là, peut-être tu parles d'une salade ou... Tu parles de la femme qui a couché pour toi 5 fois, tu l'as frappé? Ah mais vous savez, elle m'a énervé. 5 fois, je t'ai dit 5 fois, je t'ai pas dit 1 fois. Je t'ai pas dit qu'elle t'a fait une soupe, elle t'a fait 5 enfants, tu la frappes. Comment t'as fait pour la frapper? Ça veut dire que pendant ces 5 enfants, t'as rien construit avec elle. T'as pas une barrière, 2 barrières, 10 barrières, 40 barrières pour arriver. Maintenant, moi, je donne un exemple avec la femme, avec le mari, avec les enfants. Mais en vérité, il n'y a pas de différence, puisque toutes ces barrières-là, elles sont seulement symboliques de la distance que tu prends avec la réalité. T'es loin de ça. T'es loin de ça, t'es loin.
Ah, comment ça se fait que ça te prend au premier degré? C'est-à-dire qu'en fait, tu n'es pas très loin. Tu n'es pas très loin. Ben, cette logique-là, c'est quoi? C'est que l'événement, il existe, mais toi, tu ne bouges pas à l'intérieur. C'est ça, ovetamid, un présent perpétuel, mitzad atzmo, al-inyan yichal, sur un sujet. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut atteindre une perpétuité d'être. Pourquoi? Parce qu'elle a cette concentration. C'est un peu comme la logique. Quand quelqu'un, vous savez, quand on commence à conduire, alors, c'est la première fois qu'on est dans une voiture, alors, on est en train de regarder, est-ce que la voiture, elle passe? Alors, tu as peur, tu regardes la taille, il faut passer entre deux voitures, tu dis, je vais casser les rétroviseurs, alors tu as envie de sortir de la voiture pour mesurer. Alors, le moniteur dit, écoutez bien. Quand vous marchez dans la rue, vous marchez, et il y a deux personnes, et toi, tu dois passer entre les deux. Tu dis, comment je vais faire? Alors, je leur dis, ne bougez pas, je vais chercher le centimètre, je mesure, 64 cm, tu dis, bon, moi, je fais 66, je vais essayer de passer un peu comme ça. Mais personne ne mesure. Pourquoi? Parce que tu connais ton corps, tu sens ton corps, tu sens ton volume. Ton volume, tu n'as pas besoin de le mesurer. Eh bien, quand tu vas faire corps avec ta voiture et que tu vas te déplacer, tu n'as pas besoin de mesurer la voiture. Alors, comment tu dois faire? Regarde devant. Toi, tu regardes devant, tu regardes loin. Et la voiture, elle est comme toi. Mais cette image, dans la vie, c'est pareil. Il y a des gens, maintenant, ils regardent l'événement. Comment je vais faire? Comment on va faire? Regarde devant. L'événement, c'est une étape. Tu crois que les gens, ils comptent les arbres quand ils sont sur l'autoroute? Tu comptes les arbres? Un arbre, deux arbres, trois arbres, quatre arbres. Tu roules. Après, tu dis combien il y a eu de boulangerie depuis qu'on est passé? Et combien? Mais non, tu roules. Pourquoi? Toi, tu regardes loin. Tu regardes là où tu veux aller. Et le reste, c'est des étapes. Et ça s'appelle Aminia Nechad. C'est dans ta tête. Tu n'oublies jamais le but. Tu n'oublies jamais. Pourquoi tu es venu à la maison? Pourquoi tu es rentré à la Yeshiva? Pourquoi tu es rentré à la synagogue? Pourquoi tu es rentré au travail? N'oublie pas le but. Si tu oublies le but, alors automatiquement, tu te perds dans les détails. Tu te perds dans les bêtises. Pourquoi? Parce que tu n'as pas créé comme la logique. Comme la logique du... On a dit tout à l'heure. Du contrepoids. Qu'une personne, elle a créé un contrepoids. Mais ce contrepoids, c'est un peu comme les balanciers. Vous savez, vous avez une barre ici, vous avez un truc au milieu, et il y a une grande barre avec un balancier à droite, un balancier à gauche. Et cette dimension du balancier, c'est que d'un côté, c'est Al-Inyan Echad, et de l'autre côté, c'est Mitzad Atzmo. C'est-à-dire que le premier balancier du contrepoids, c'est que c'est par rapport à toi-même. C'est-à-dire que tu arrêtes de vivre en fonction des autres. Tu regardes chez toi. Comment tu fonctionnes? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Mais ça, il faut se connaître. Si tu continues à exister que par rapport au regard des autres, tu vas être tout le temps déstabilisé, puisque l'autre, c'est toujours quelqu'un d'autre. Ça va? Donc, tu as un balancier. D'un autre côté, c'est quoi? C'est un Inyan Echad. Inyan Echad, c'est quoi? C'est que ton but, il est clair. Quand tu sors du bureau, tu es dans ta tête, j'entre à la maison. J'entre à la maison, retrouver ma famille, les gens que j'aime, pour qui j'investis, pour qui je travaille, avec qui je vais construire, qui vont être ma descendance, c'est ceux qui me donnent la force, c'est eux qui me donnent l'énergie, tu te prépares dans ta tête, tu sais où tu vas. Ça va? Quand tu vas au travail, c'est pareil, tu dis attention, je vais rentrer dans le travail, il y aura du stress, il y aura des tentations, il y aura du yitzhara, il y aura des embrouilles, il y aura des magouilles, il y aura des propositions, et moi j'y vais parce que je vais rester un ben Torah avec des principes, je vais rester honnête, et je veux un argent de Kiddush Hashem, tu te prépares, tu ne perds pas ton but. Comprenez ou non? Et dans chaque dimension, c'est pareil. Chaque fois, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes loin. C'est le principe de la droite. Vous savez qu'entre deux points, on peut faire passer une droite. Ça va? Jusqu'où elle va la droite? Plus l'infini. Plus l'infini. Oui? Toi, tu dois regarder plus l'infini. Tu ne regardes pas l'événement. Toi, tu regardes cet événement, il s'inscrit dans une droite plus l'infini. Aujourd'hui, il y a une discussion avec cet enfant. Mais cet enfant, il va être à la choupa, et un jour, il sera un papa, et un jour, il sera un grand-papa. C'est loin. Toi, tu te braques sur un détail maintenant. Tu te dis, mais il m'a déçu, il m'a menti, il m'a embrouillé, je vais le détruire, je vais le casser, je vais le... Il est petit. C'est un événement. Il y en aura des événements. Tu me crois que c'est simple? Quand c'est facile, quand on a investi tellement et que ça fait mal, ça va pas, je sais plus si. si tu as besoin qu'ils réussissent ou tu as besoin qu'ils se plantent pour justifier pourquoi toi tu n'as pas réussi. On ne sait plus. Tellement tu entretiens cette négation. Toi, tu regardes loin. Loin.
Ok, Adam, il ne faut pas corriger les enfants.
Bien sûr. Mais pas avec la ramène. Là, on ne parle pas de l'événement. On parle comment on vit l'événement. C'est ça qui nous intéresse. Parce qu'on est en train de parler de ça. Oui. Encore une fois, il y aura du bien, il y aura du mal, il y aura du chaud, il y aura du froid. Mais la personne, elle ne bouge pas. Pourquoi ? Parce qu'on a dit qu'elle ne veut pas être en réaction. Elle veut être en décision. Alors maintenant, je pense qu'il faut crier. Et maintenant, je pense qu'il faut une treha. Et maintenant, je pense qu'il faut une punition. Et maintenant, je pense qu'il faut une récompense. Mais je pense que... Voilà ce que j'ai fait. C'est pas le style. Je l'ai mis là-bas, et après, j'aurais pas dû. J'ai pas réfléchi. Je l'ai crucifié. Il paraît que des fois, le papa, quand il se met en colère, il crucifie le fils. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, elle rentre pas dans ce jeu-là. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'elle a un espace, elle a un contrepoids. Elle ne va pas tomber, parce qu'il y a un contrepoids. Mais le contrepoids, on a dit, on le fabrique. Comment on le fabrique? On a dit d'abord, cette notion-là de OV Tamid, c'est-à-dire d'une perpétuité d'être. J'ai des décisions à prendre. Il n'y a rien qui m'oblige à me stresser. Il n'y a rien qui va me bouleverser, qui va me pousser. Dafka, la précipitation, le bilboule, le mélange, c'est un jeu de Satan. Oui. Tu sais comment ils font les vendeurs quand ils veulent. Ils disent, allez, écoutez, monsieur, c'est le dernier, il faut lâcher tout de suite, la maison, elle va se vendre, il y a beaucoup de gens qui ont des demandes. On n'est pas pressé. Si elle est pour moi, elle est pour moi. Si elle n'est pas pour moi, elle n'est pas pour moi. Je vais réfléchir, je vais faire le tour du quartier, je vais comparer avec d'autres produits, on verra bien. Ah, mais vous savez, monsieur, vous risquez de le rater. Pourquoi je vais le rater? Pourquoi je vais le rater? S'il est pour moi, pourquoi je vais le rater? Ça, il ne faut pas tomber dans le laxisme non plus. Oui. Mais je sens que je suis en train de prendre une décision. Je ne suis pas poussé. Parce que quand tu es poussé, ben si tu es poussé, ça veut dire que ce n'est pas toi qui pousse, puisque tu es poussé. C'est pas normal. Maintenant que tu es poussé à acheter cette maison parce que ton beau-frère il a acheté la même, c'est pas toi. Tu es poussé parce que a engueulé ton fils, parce que le Moré t'a dit que c'est pas bien. Attends, parle à ton fils, essaye de voir ce qui s'est passé exactement. Ah non, arrête de nerf, je l'ai tué parce que j'avais la honte à l'école. Alors le prof il t'a créé une pression et toi tu dégages la pression. Il y a des gens comme ça, ils ont une pression au travail, ils déchirent la famille. Il y en a, ils ont une pression à la famille, ils déchirent le travail. Non, tu dois redistribuer les énergies de manière proportionnelle selon tes choix et tes besoins. Tu dis, mais c'est pas évident. Alors les gens disent, bon, on est quand même des êtres humains. C'est-à-dire, si ça c'est être un être humain, c'est quoi être un animal? Parce que la mouche, elle s'envole. C'est un réflexe. Mais un homme, il n'a pas des réflexes. Un homme, il a des choix. Tu dis, on n'a pas toujours le choix d'avoir le choix. Alors il faut se donner le choix d'avoir le choix. Même des gens, des fois, par exemple, ils sont très mal, ils disent on va divorcer. Je dis, mais on ne divorce pas dans un état pareil. On sait bien, on est fort, et on prend la décision et on divorce. Il faut autant de yishuv hadaat, il faut autant de calme pour se marier que pour divorcer. Parce que si tu te maries sur un coup de folie et tu te divorces sur un coup de nerf, en fin de compte, tu t'es ni marié ni divorcé. Puisque c'est le coup de folie qui t'a marié, c'est le coup de nerf qui t'a divorcé. Donc en fin de compte, tu n'es ni marié ni divorcé. Ce n'est pas une trajectoire qui t'appartient. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu calmes. Tu calmes et tu te mets en situation de pouvoir faire le choix. Et ça, c'est quoi? C'est l'attitude que tu as en abordant la situation. Et c'est la seule qui va garantir l'objectivité et la vérité de ce que tu vis. Sinon, ben, rien n'est vrai. Ben, rien n'est faux. Ben, tout est relatif. Comme dans la géométrie. En géométrie, le point le plus, la distance la plus courte entre deux points, c'est la droite. Ça, c'était avant Einstein. Mais depuis Einstein, c'est la courbe. Ça veut dire, si tu prends un repère comme la pièce, c'est la droite. Mais si tu prends l'univers, c'est la courbe. Donc la logique, c'est quoi? Si tu regardes la vie, en théorie, c'est toujours la ligne droite la plus simple. Mais dans la vie, tout le monde sait que c'est très rare la ligne droite. C'est très rare. T'as un problème avec ton mari, tu dis, bon, écoute, ben, je vais lui parler. C'est pas comme ça. Il faut faire une tahboula, il faut faire un détour, il faut susciter, il faut amener jusqu'à ce que l'autre... C'est pareil, un enfant, tu parles-lui clairement. Ben non, ça marche pas. C'est le principe des pointillés. Si je dessine une fleur et que je vous montre la fleur, alors je vais dire, ouais, pourquoi tu m'imposes mes idées, tu m'imposes ta fleur. Non. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une fleur en pointillé. Après, tu la regardes, je dis, qu'est-ce que tu me dis? Une fleur. Ah, c'est toi qui l'as dit. Ah, tu as raison, ça ressemble à une fleur. L'autre, il est content, il dit, ouais, j'ai trouvé que c'était une fleur. Il faut susciter chez l'autre, il ne faut pas inciter. Tu dis, mais on n'a pas toujours la patience. C'est comme tu veux. Si tu n'as pas la patience, tu vas gérer le frontal. Si tu as la patience, tu vas gérer le normal. Alors nous, on sait que le frontal, le contact frontal, il va rencontrer la susceptibilité, les nerfs, l'orgueil, la méchanceté, la rancune, la haine. C'est du frontal. Fais du... Attends. C'est-à-dire que pour chaque situation, pour chaque personne, je dois trouver des chemins. Parce qu'en plus que la courbe, elle n'est pas la même pour tout le monde. En français, on appelle ça le taux de déformation. Vous avez un fusil, par exemple, ouais, qui est tordu de 5 degrés. Donc quand vous tirez, il ne va jamais tirer dans la cible. Donc vous êtes obligé de viser la cible, en plus de, après de recalculer 5 degrés, et là ça va tirer dedans. Ça va? Maintenant, ta femme, elle vient d'accoucher. Donc tu sais qu'en sortant de la clinique, parce que là-bas elle est pouponnée, il fait chaud, elle est fatiguée, elle a la baisse d'hormones. Donc elle est en hypersensibilité. Donc elle a un taux de déformation, disons, de 40%. Maintenant toi, ça fait... une semaine que tu te tapes les gosses, en plus il y a sa mère à la maison, oui, tu dois faire les courses, la bouffe, amener le truc, t'es énervé, en plus au boulot il y a eu un problème avec un client qui t'a planté $1 million, tu dis, bon écoute, tu te presses, maintenant on sort et on y va. Alors elle craque, hein, c'est la plus... en plus tu gueules, en plus tu chiales. Tu dois tenir compte du taux de déformation. Maintenant quand on est solidaire, oui, des fois ma femme, elle se met à pleurer comme ça. Alors je lui dis, t'es pas bien? Elle me dit, non, c'est les hormones. On savait, on était complices, on savait. Des fois, les gens, ils savent pas pourquoi ils pleurent. Mais quand l'autre, il est sensible, il dit, tiens, je vais en profiter pour lui mettre une tranche. Ouais, tu m'emmènes jamais en vacances. Oh, oui. Idée, elle pleure pas pour les vacances. Elle est même pas pensée en vacances. Elle pleure pour les hormones. Et les hormones, c'est un truc mécanique, c'est même pas elle. Vous me suivez ou non? Donc, elle tient compte du taux de déformation des hormones. Toi, tu tiens compte du taux de déformation des hormones, d'accord? Maintenant, le taux de déformation, des fois, il est très fin, par exemple. Avec les enfants, est-ce qu'il faut avoir de l'ambition ou est-ce qu'il faut avoir une capacité d'adaptation? D'adaptation. Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est une grande ambition? Et c'est dangereux parce que tu risques de leur imposer ce que tu voudrais qu'ils soient avec une difficulté à assumer ce qu'ils sont. Ou est-ce qu'il faut avoir une grande adaptation? C'est de se rendre compte que l'enfant, il est ce qu'il est et que c'est cet enfant qu'il faut aimer et c'est pas l'enfant que tu aurais voulu qu'il soit. Compliqué. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ben, au début, il faut une grande ambition, mais il faut vite travailler l'adaptation. Ça va? Parce que si tu restes avec tes ambitions, tu vas avoir un taux de déformation énorme qui va être celui de ta déception. Maintenant, l'autre, il a rien fait. Il a juste été lui-même. C'est comme si, par exemple, toi, tu vas acheter, je sais pas moi, un ballon, et puis tu reviens avec un kangourou. Alors tu t'énerves contre le ballon, ouais, moi je voulais un kangourou, et c'est pas un kangourou, et on bondit comme un kangourou, mais c'est pas un kangourou, il a pas les poils du kangourou, mais c'est un ballon. C'est pas un kangourou, c'est un ballon. Ça, c'est important. Oui, non. C'est ton mari, il est comme ça. Tu dis, non, moi je le voyais différent, et puis je le compare avec mon ex, ou là celui d'avant, ou là le premier. Ou avoir la composition des quatre derniers. Une espèce de mutant comme ça, ouais. Le sourire de l'un, la maîtrise de l'autre, le t-shirt du troisième et le sourire du quatrième. Tu dis, mais t'es marié avec quoi, toi? Un virus évolutif? Non, c'est lui. Pourquoi? Sinon, il va falloir que tu subisses le taux de déformation de ta déception. L'autre, le taux de déformation de sa désillusion. Illusion, désillusion.
L'autre, le taux de déformation de ses nerfs. Et j'en ai nerveux, je suis nerveux. D'accord ? Bon. Je dis alors, donc, puisque t'es nerveux, tout le monde t'énerve. C'est normal, je suis nerveux. Donc tout le monde m'énerve. T'as compris, je m'énerve.
Alors après, tu dis, mais c'est marrant, j'arrive à parler avec personne, les gens me fuient. Ben, tu calcules ce que l'autre il entend, plus le taux de déformation de ta tronche de cake.
C'est que celui qui ne connaît pas son taux de déformation, il ne peut pas comprendre sa vie. Et celui qui ne connaît pas le taux de déformation de l'autre, par exemple les intérêts, c'est un taux de déformation. Les intérêts. C'est un taux de déformation. Vous comprenez cette logique là ou non?
Donc comment toi tu espères retrouver la sérénité puisque tu ne connais pas le taux de déformation?
Et le pire encore une fois, c'est que le taux de déformation il change. Chez toi. Il se déplace. Chez la femme aussi. Tu sais qu'on épouse 5 femmes. Vous savez ou non? On épouse une femme Nida, une femme Panida, une femme enceinte, une femme ménopausée et une femme quand elle est en présence de sa mère. C'est une autre femme. D'accord? Donc en fin de compte, tu as 5 femmes. Comment tu vas faire?
Minimum.
Minimum, ouais. Est-ce que l'homme, lui, qui n'a pas de dérèglement hormonal, est-ce qu'il est toujours le même ou non? Non. Qui est devant sa mère, devant sa femme, en présence de son ex, quand une femme le regarde, il est combien de personnes aussi?
Comment je peux faire?
Comment tu vas faire? Comment va fonctionner? Il y a des enfants, par exemple. À la maison, ils travaillent très bien. À l'école, ils font rien. Vous avez paralysé comme ça. Ou le clown. Dès qu'il rentre en classe, il se sent obligé de faire la foire. Et à la maison, oui, on va faire le devoir. Lui, il connaît toute la leçon. Il arrive là-bas, pas un mot, sourd-muet. Quand tu manques dans confiance en lui, pression trop forte au niveau de l'école, le niveau de la classe qui lui impose, crampe existentielle au niveau du silo. Il va falloir que tu trouves quelque chose pour te rassurer psychologiquement. Mais la réalité, elle est là. Alors comment tu vas trouver la force de supporter le temps que l'autre y change? Là encore une fois, on a dit, il faut une référence. Alors tu veux une référence? Prends-toi toi. Je vous rappelle que l'impatience que nous avons eue, que nous avons avec nos enfants, nous ne l'avons pas eue à leur âge envers nous-mêmes. C'est vrai ou non? Ça va? Au contraire, on disait, ben, c'est pas évident et c'est difficile. Alors pourquoi on leur dit, mais travaille, ça c'est parce que tu fous rien, t'es un glandeur, et tu travailles pas, t'es pas sérieux, et je sais à quoi tu penses. Comment tu sais à quoi ils pensent? Parce que tu y penses. Comprenez ou non? Et si je disais, non. Moi, je veux que cet enfant-là, il arrive à construire chez lui ce que moi je construis. C'est-à-dire quoi? Cette indépendance, cet équilibre, cette menoucha, donc cette attitude face à la réalité. Donc si je le bouleverse et je le terrorise, il ne va jamais être serein. Alors comment je peux avoir l'espoir que lui, il atteigne cet équilibre si moi, je ne l'ai pas atteint chez moi? Et l'enfant, il sera au moins le miroir, au moins le miroir. Donc je peux faire le contraire. Je peux dire, si j'arrive à créer, j'arrive entre guillemets à utiliser mes enfants et mon entourage, ben justement pour fabriquer ça, pourquoi? Parce que ce que je propage, c'est ce que je contiens. Donc si je propage de la sérénité, c'est que je contiens de la sérénité. Si je propage de l'assurance, c'est que je contiens de l'assurance. Si je propage de la confiance, c'est que je contiens de la vérité. Si je propage de la joie, c'est que je contiens de la joie. C'est comme ça la logique. Donc je peux me servir par effet de réverbération pour construire cette intériorité. Alors qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne cette capacité-là? Ça donne ce qu'on appelle en français la confiance en soi. C'est ça la confiance en soi. La confiance en soi, c'est d'arriver à perpétuer une sensation d'équilibre entre soi et la réalité. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est normal. La première vente, tu trembles, la deuxième, tu trembles, la troisième, tu trembles moins, la cinquième, la sixième. Premier diagnostic, c'est pas facile. Le centième, c'est facile. Qu'est-ce qu'il y a de différence entre les deux? C'est que tu as perpétué cette sensation que tu es.
ça qu'à l'époque je vous avais dit, mais je ne sais pas dans quelle mesure vous révisez,
que la joie, c'est la satisfaction d'être. D'accord ? Et la confiance en soi, c'est de perpétuer cette sensation. Si j'arrive à perpétuer cette sensation d'être une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, alors je commence à avoir confiance en moi. Maintenant, cette confiance que j'ai en moi, elle remplit ce contrepoids.
Ça va ?
Donc quand il va y avoir un événement bouleversant, j'ai le contrepoids. Mais si je n'ai pas construit ça, il n'y a pas de contrepoids.
C'est ça qu'à l'époque, vous l'avez dit.
C'est la différence entre faire et devenir. En vérité, faire, ça ne construit pas. Par contre, si tu deviens grâce à ce que tu fais, ça, ça te construit. Maintenant, le problème, c'est que la prise de conscience de ce que tu deviens, elle est nécessaire. C'est comme, par exemple, les gens qui n'arrivent pas à reconnaître leurs valeurs. Comme les gens qui ne voient pas leurs enfants grandir. Comme les gens qui ne voient pas leur couple évoluer. Comme les gens qui ne voient pas qu'ils ont la bracha dans le travail, toujours en train de se plaindre. Ouais, c'est pas normal, il faut payer les impôts. Mais ça va grâce à Dieu, bon, c'est vrai, t'as fait 5% de chiffre de moins. Mais t'as quand même pris 5 millions d'euros cette année. Arrête de râler. Oui, mais tu comprends, j'avais une prévisionnelle de 30%, j'ai fait 28%. Ça va. Il y en a qui sont dehors. Comment c'est logique ou non? Pourquoi? Parce que tu ne veux pas constater, comme si de constater, c'était une forme de rabaissement. Tu peux aller voir ta femme et dire, bah, écoute, chérie, je suis très content qu'on a eu cette discussion, ça m'a fait comprendre des choses, j'espère que toi aussi tu les as compris, et les éléments qu'on a pris, eh ben, ça va nous aider à continuer à construire ensemble. C'est-à-dire, moi j'ai reconnu, toi t'as reconnu, on a entériné quelque chose. Eh ben, ça va développer la confiance de notre couple. Alors que les gens disent,
oh, mais c'est évident, c'est même pas la peine d'en parler.
Pourquoi pas? Qui suis-je, toi, de l'autre, les peurs qu'elle peut avoir de tout le temps entendre que des reproches et jamais des compliments? Qu'est-ce que tu sais qui se passe dans sa tête?
Je ne sais rien. De toute façon, j'ai pas besoin de lui dire c'est bon. Si c'était pas bon, je lui aurais jeté la gueule. Donc ça veut dire qu'elle est toujours comme ça.
Elle ne sait pas ce qui va arriver, par où ça va venir. Et c'est pareil des maris. Des maris qui ont des femmes qui crient, ils n'ont jamais de nahat. C'est vrai, le type qui travaille juste en face, il met 1h30 pour rentrer du boulot. Il ne peut pas. Il rentre, il ouvre la porte. Le napalm. Il est discret. Il rentre discret. C'est pas normal. Par la fenêtre, s'il peut rentrer directement dans le lit.
D'accord.
Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas cette reconnaissance. Or, la reconnaissance, elle donne la confiance. Ça a l'air bête, c'est comme ça. Ça a l'air bête. Mais comme un enfant, il dit, je ne sais pas faire les exercices. Je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas. Bon, tu sais ce qu'on va faire. Quelle classe il est?
CM2. Alors, tu sais quoi? Tu dis, allez, tu lui donnes un truc de CE2.
Mais c'est nul. C'est pas grave. Parce que là, tu n'es pas en train de travailler les mathématiques. Tu es en train de travailler la confiance en soi. Donc, il a fait le truc de CE2. Il dit, ah ouais. Viens, on en fait un deuxième. Ah ouais. Fais un troisième. Ah, super. Après, donne-lui un truc de CM1. Oh, ah oui, c'est bon. Ah, j'ai réussi à le faire. Oh. Et maintenant, donne-lui un truc de CM2. Maintenant, évidemment qu'il avait le niveau de CE2. Et il avait le niveau de CE1. Il avait le niveau de CM1. C'est normal. Il avait le niveau. Mais il ne le savait pas. Il n'a pas cette confiance. C'est comme le vélo. Pour savoir en faire, il faut en faire. Ça va ? Maintenant, le fait d'en faire, si tu n'as pas pris conscience que tu sais en faire, eh bien, tu ne sais toujours pas en faire. C'est pour ça que quand quelqu'un y tombe, tout de suite, on lui dit, allez, remonte sur ton vélo et refais du vélo. Parce que s'il reste avec le traumatisme qu'il avait, qu'il est tombé, donc il a perdu son capital confiance qu'en fin de compte, il ne sait pas en faire. Donc, quand quelqu'un il se plante dans une vente, tu dis, va faire une deuxième vente. Retourne, va attraper un autre client, va, tout de suite. Sinon, il rentre dans la logique de l'échec. C'est pareil. Bon, ça s'est mal passé tous les deux. Là, viens, on va parler. Tu t'es engueulé avec la belle-sœur. C'est pas grave. Attends 2 jours, rappelle-la, dis-lui, j'ai envie de parler avec toi. Ah non, ça sert à rien, sinon tu la connais pas. Puis c'est l'orgueil. C'est pas moi de faire le premier pas, mais t'as pas compris. C'est pas en élargissant la fracture qu'on va rapprocher les morceaux. Tu dis, mais qui a dit que c'est à moi de le faire? Mais t'as pas compris. Elle, c'est rien du tout, elle. Elle, c'est une occasion de régler ton problème personnel d'équilibre. Maintenant, si ta vie, c'est de fuir tous les gens qui te bouleversent, tu vas vivre dans un désert ou dans un asile de fous. Pas un monastère, un laïster. Ben c'est ça la dépression. C'est que tu t'enfermes pour refuser toutes les agressions de la réalité, qui en fin de compte ne sont que des invitations à exister. Donc tu fais le contraire. Tu dis, je vais régler ce problème avec ma belle-sœur, pas tellement pour elle, mais pour que moi, j'ai pas une relation comme ça avec la réalité. Je vais régler le problème avec ce boulot parce que je veux pas partir dans un échec. Je vais être bon, je vais être reconnu, je vais être accepté et je veux dire, je pars. C'est fou. Si ça te plaît pas, attends. Non. Je ne parle pas avec la tête basse, je parle avec la tête haute. C'est-à-dire quoi? J'ai utilisé le travail pour régler un problème personnel. Donc je n'étais pas là pour faire, j'étais là pour devenir. Maintenant, le fait de prendre conscience que tu deviens, c'est ça qui te donne ton capital.
Ça va? C'est ça que je vous avais expliqué à l'époque avec le cycliste. Vous vous rappelez le cycliste? Il n'y a que Monsieur Lévy qui révise. Je suis très en colère. Levez la main ceux qui ont lu le premier livre. C'est tout? Paresseux! Moi, faites ce que vous voulez.
Le premier.
Le deuxième? Tout le monde dit que c'est le premier qui est plus dur.
C'est vrai? Non, le deuxième, les sujets sont plus durs, mais le langage est plus clair. Le premier, le langage est plus compliqué, mais les notions sont plus simples. Pas simple. C'est pas grave. Non, c'est juste pour vous donner du mérite. Si c'était trop facile, on n'a qu'à faire une émission de télé. Alors, détendez-vous. Il faut le relire, c'est normal. Bon, on va faire un troisième pour expliquer le deuxième. Donc, c'est quoi l'idée? À l'époque, je vous avais expliqué une personne, comment elle est faite. Vous avez un écran ici, vous voyez l'écran là? Donc, il y a un gros carré comme ça. C'est la personne. Dans cette personne, il y a deux réservoirs. Un réservoir de joie, d'accord? Et un réservoir d'effort. Le réservoir d'effort, il s'appelle la conscience. Voilà, chaque fois qu'on fait un effort, en vérité, on fait un effort à travers sa conscience. Maintenant, à chaque fois qu'on fait un effort, on puise dans son réservoir de joie. Parce qu'on fait un effort de préparer le Shabbat, mais on aime faire le Shabbat. On fait un effort de parler à sa femme ou son mari, mais on aime parler à son mari. Donc, on fait un effort dans son réservoir de conscience, en puisant dans son réservoir de joie. Super. Après, cette énergie qui est conjuguée de joie et d'effort, on l'a fait passer par un système qui s'appelle le système nerveux, qui est représenté par 4 câbles. Et cette énergie, elle arrive à l'extérieur et on fait quelque chose. Donc, on résume l'histoire. Quand, à chaque fois que je fais quelque chose, je prends une décision en faisant un effort, je prélève un petit peu dans mon réservoir de joie. Cette énergie-là, je la transmets à travers mon système nerveux et je la réalise à travers mon acte. C'est bon? C'est bon pour vous? Super. Maintenant, où est l'erreur? C'est qu'inconsciemment, je vide le réservoir de joie. On croit qu'on reste toujours jeune. Donc, à un moment, il n'y a plus de joie. Mais on continue à faire des choses parce qu'on a une conscience. On continue à faire des efforts. Et un jour, même la conscience, on la vide. Il ne reste plus que les nerfs. Et un jour, on brise les nerfs. C'est là qu'on craque. Où est l'erreur? L'erreur est très simple. L'erreur, et c'est une question que moi je pose aux gens, mais chacun il peut se la poser à soi-même, c'est comment tu régénères ton réservoir de joie?
Vous savez, moi je pense pas à moi, je suis là pour mes enfants, je suis là pour mes amis, je suis là pour la Torah, je suis là pour la Zaka.
Même un arbre qui donne des fruits, il prend des forces. Comment tu régénères toi? C'est pas de l'égoïsme.
Oui, c'est pas de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est de penser à soi au détriment de l'autre. Mais toi, tu le fais pas au détriment de l'autre. Tu le fais pour toi et pour les autres. Tu es un homme bien et un bon père. Et un grave et un responsable et un Bals Dakar. Mais Bals Dakar, c'est les fruits que tu donnes. Mais le fruit, il vient d'un arbre. Et l'arbre, il faut le nourrir. Donc comment tu régénères? Comment tu régénères?
Tu dis, j'ai pas la tête à ça, tu crois que c'est simple, avec toutes les responsabilités, et puis j'ai beaucoup de soucis, j'ai pas le temps de penser à moi, mais c'est suicidaire.
Une maman comme ça, elle est venue chez moi, je lui ai dit, écoutez, madame, il faut partir 2 semaines en vacances. J'ai attrapé son oreille, j'ai dit, tu prends ta femme, vous partez 2 semaines. Elle m'a dit, mais ça n'est pas possible, mais vous savez bien que j'ai une grande famille, et j'ai une conscience de mère, et je peux pas mettre les enfants, et j'ai jamais confié mes enfants à personne, même pas une babysitter. Alors vous croyez que je vais partir pendant 2 semaines? Je lui ai dit, écoutez, madame, vous pouvez choisir.
Il vaut mieux pour les enfants qu'ils aient une maman absente pendant 2 semaines avec le traumatisme que ça va provoquer, que d'avoir une maman présente et dépressive pendant 2 ans. Parce que j'ai senti qu'elle était à la limite, la bascule. Et quand les gens y tombent, ouais, c'est plus dur de les relever. Beaucoup plus dur. Hein, s'il vous plaît. Il faut savoir dire maintenant, c'est le temps du repos. Comme c'est le temps d'aller dormir. Et là, c'est le temps de manger. Et là, c'est le temps de parler. Et là, c'est le temps d'étudier. Et bien là, c'est le temps de se reposer. Ça s'appelle de penser à soi. Maintenant, pourquoi ça veut dire de penser à soi? Alors, je vous donne la logique. Le bon Dieu nous a créé avec à l'intérieur de nous un diamant brut. Un très beau diamant de 8940. Très beau. Mais il est brut. Maintenant, il faut tailler ce diamant. Ouais. C'est quoi tailler le diamant? C'est la personne que je vais devenir. Comment je deviens? Grâce à ce que je fais. À chaque fois que je fais quelque chose, ça fait apparaître chez moi une facette de diamant. Ce que nous, on appelle en français la maturité. On avait expliqué à l'époque, ouais. Quand je fais quelque chose, je fais. Donc j'existe. Je prends ma définition, mon jeu. Je prends ma volonté. Je la projette à l'extérieur. Quand je la réalise, ouais. Donc moi, je suis Midgaber. Quand je suis Midgaber, je deviens Guéver. Midgaber, c'est pronominal, disons. Je deviens Guéver. Midgaber, Ani Midgaber. Je deviens Guéver. Maintenant, quand moi je suis Guéver, le Yetzirah, il est Yéled. Quand moi je suis Yéled, le Yetzirah, il est Guéver. Maintenant, quand moi je suis un homme, la réalité, c'est un enfant. Quand moi je suis un enfant, la réalité, c'est un homme. Donc, puisque la réalité, elle m'oblige à devenir, maintenant, la réverbération du phénomène de l'existence s'appelle la maturité. C'est clair pour vous? C'est pour ça qu'à l'époque, je vous avais dit, le bon Dieu, il va te donner une série d'exercices. Donc, les exercices de 8 ans te donnent l'âge de 8 ans et demi. Les exercices de 20 ans te donnent l'âge de 21 ans. Les exercices de 30 ans te donnent l'âge de 32 ans. C'est-à-dire que tu grandis en fonction des exercices qu'on te donne. Ça, c'est les gens qui grandissent. Alors, des fois, on grandit, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'on ne s'en rend pas compte. Alors, je donne la logique, c'est simple. Quand toi, tu fais quelque chose, dans n'importe quoi que tu fais, on appelle ça en français avoir le double regard. Je sais que ce n'est pas très connu, c'est normal, c'est moi qui l'ai inventé. D'accord? C'est quoi le double regard? C'est que quand tu fais quelque chose, tu dois constater ce que tu fais, mais tu dois aussi constater ce que tu es devenu grâce à ce que tu as fait. Par exemple, ton enfant, il a fait un truc, une bêtise. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Pour la 100e fois, 101e fois, 101e fois, tu lui expliques que ce n'est pas bien de le faire. Donc en réalité, tu fais du rhinour, parce que tu ne sais pas quand est-ce que l'enfant va comprendre. Il y a des enfants qui comprennent au bout de 2 fois, il y en a qui comprennent au bout de 12, il y en a au bout de 60. Il y en a qui comprennent après qu'ils ont des enfants, pour te dire. Ouais. Donc, tu ne sais pas quand est-ce qu'il va comprendre. Donc toi, tu lui réexpliques. Maintenant, l'acte que tu fais, si on demandait à un témoin, excuse-moi, qu'est-ce qu'il est en train de faire avec son fils? Tu dis, il est en train de faire du rhinour. Ce que tu fais, c'est du rhinour. Mais pour toi, perso, ce rhinour, là, il ne te sert à rien. Parce que tu es en train de lui expliquer une chose que tu as compris, toi. Parce que j'ai déjà dit, si tu ne l'as pas compris, c'est pas la peine d'essayer de l'expliquer. De toute façon, tu ne peux pas lui transmettre une chose que tu n'as pas. Donc, toi, en vérité, ce n'est pas pour le rhinour que tu le fais. Pour toi, c'est quoi? C'est que tu travailles tes nerfs. Donc, tu as produit un acte d'éducation, mais chez toi, ça va tailler une facette de ton diamant qui s'appelle ta patience. D'accord? Toi, tu as bien compris la situation avec ta femme. Mais le problème, c'est que tu ne trouves pas les mots. Donc, avec elle, tu fais de la communication, mais avec toi, tu fais un travail d'adaptation à elle. T'as compris cette différence? Oui? Avec le client, tu fais du business. Mais à ton niveau, à toi, tu fais quoi? Tu fais un travail sur l'honnêteté. Donc, il y a toujours ce que tu fais et ce que tu deviens. Maintenant, la prise de conscience de ce que tu deviens grâce à ce que tu fais, c'est ça qui remplit ton réservoir de joie. Vous avez compris?
Oui, la coule sur ce que j'avais fait.
Voilà. Je fais n'importe quoi, encore une fois. Je fais n'importe quoi. Je finis mon livre ou je prépare mon Shabbat ou je discute avec l'enfant ou j'arrive à une conclusion avec mon mari. N'importe quoi que j'ai fait, je l'ai fait. Ouais. Et bien, quand je l'ai fait, je dois être capable de dire, eh ben ça c'est ce que j'ai fait, mais maintenant qu'est-ce que ça m'a apporté? Eh ben j'ai grandi sur ça. Comme le Ramban il dit, chaque soir avant de dormir, un homme doit réfléchir. Qu'est-ce qu'il a appris aujourd'hui dans la Torah? Pour celui qui étudie, bien sûr, celui qui n'a pas étudié, lui il va réfléchir, qu'est-ce qu'il a appris de la télévision, alors allez, d'accord? Oui.
C'est pareil. Maintenant, on fait Cheshbon HaNefesh. Avant de dormir, j'ai fait cet Avera, j'ai fait cet Avera, j'ai fait cet Avera, j'ai fait... Tu peux faire aussi un Cheshbon, un calcul de qu'est-ce que tu as gagné aujourd'hui. Je me suis amélioré sur ça, j'ai grandi sur ça, j'ai ressenti ça, j'ai vu le miracle d'Hachem sur ça. Fais-le. Pourquoi tu ne ferais pas un bilan positif puisque tu es capable de faire un bilan négatif? Même un couple. Moi, j'ai des couples qui sont des fois en difficulté. Je leur dis chaque soir, avant de dormir, vous marquez, prenez un cahier et vous marquez tout ce que vous avez réussi aujourd'hui en tant que couple. Ça vous nourrit. Hein? Réussi. On a réussi ça, on a réussi ça. Enfin, pourquoi? Parce que la prise de conscience de ce que tu es devenu grâce à ce que tu as fait, cette prise de conscience, c'est elle qui régénère ton réservoir de joie. Donc le cycle, il est comme ça. On a dit donc impulsion d'existence, ouais, qui part de la conscience, c'est l'achlata, la décision. Elle est nourrie de joie. Tu la projettes à l'extérieur. Et il faut qu'il y ait de la joie, parce que s'il n'y a pas de la joie dans tes choix, il y a de la rama dans tes choix. Donc tu projettes la mort, c'est dangereux. Donc tu projettes de la joie, mais ça fatigue d'exister. Donc ce que tu as produit, encore, tu as réussi une salade cuite, ou que tu as écrit un quatrième livre. Il n'y a pas de différence, parce que c'est seulement que tu as été au bout d'une décision. Eh bien, tu prélèves le maaser. C'est quoi? C'est qu'est-ce que je suis devenu grâce à ça? Et ça, hop, ça revient, le cycle, il se termine, et l'énergie, elle revient sur ton réservoir de joie, et ça te remplit de joie. C'est pour ça qu'il dit le Rav Yerucham Halevi, il dit quand quelqu'un il fait quelque chose d'important, quand quelqu'un il fait quelque chose de bien, quand quelqu'un il fait quelque chose de valeur, oui, ça lui donne du poids. Il sent un poids, il sent une arnaa, il sent une soumission, il sent qu'il a pris de la maturité. Par contre, quand il fait n'importe quoi, ou qu'il délire, ou qu'il ment, ou qu'il triche, ou quoi, il sent léger. Il sent le vide. Comme les gens, tu dis, bon, tiens, en fait, pour le magasin, là, qu'est-ce que tu penses de celui-là? Tu peux le mettre comme directeur commercial? Alors, il y a une expression en français, on dit, tu sais, il est un peu léger. C'est quoi, il est léger? Il n'est pas lourd, il est pas gros, c'est quoi léger? Non, tu dis, il est un peu léger. Il s'envole. Ouais. Et l'autre, au contraire, il est là, il a une présence, il a une prestance, il a un charisme. Il est là. Ouais. Maintenant, pourquoi le mot kaved, qui veut dire lourd, ouais, il a les mêmes mots que le mot kavod? C'est-à-dire que le poids que tu prends, ouais, ça vient justement de ça. Pour ça, je vais donner l'exemple du cycliste. Le type, il est en train de faire du vélo. Il pédale. C'est fatigant de pédaler. Ah ouais. Alors, après, il réfléchit. C'est marrant parce que sur la roue du vélo, il y a une dynamo. La dynamo, elle fait du courant. Le courant, il est récupéré par un fil. Il va jusqu'au phare. Et le phare, il éclaire. Le type dit, mais je suis vrai. Moi, je suis en train de rouler pour faire du courant pour le phare. Mais j'ai pas besoin. Il débranche le fil du phare et il le met sur sa cuisse. Donc maintenant qu'il est en train de pédaler, ça lui renvoie de l'énergie. Il ne se fatigue jamais. Donc, tu veux ou non? C'est-à-dire que les gens disent, vous savez, je produis beaucoup. Mais non, il ne faut pas dire ça. Il faut dire, je me nourris beaucoup. L'autre, il se nourrit de son travail. Donc à 95 ans, ça lui donne une pêche de travailler. L'autre, il dit, mais ça ne vous fatigue pas d'étudier la Torah? Il dit, mais je me nourris de la Torah. Il dit, mais ça ne te fatigue pas de tout le temps être en train de construire avec ta femme? Mais la satisfaction que j'ai de construire, c'est ça qui me donne la force de continuer. Il dit, mais ça ne te fatigue pas de réviser avec les enfants? Mais je suis tellement content de voir qu'ils comprennent que ça me donne envie encore de réétudier. Donc tu vois bien que ce que tu crois qu'il te coûte, en vérité, ça te nourrit. Alors pourquoi il y a des gens, la vérité, la réalité leur coûte, et il y en a, la réalité les nourrit? Parce qu'ils ont oublié de devenir. Ils sont devenus des producteurs. Ils produisent du fric, ils produisent des maisons, ils produisent des enfants. Il y en a même qui produisent des sourires. Bonjour,
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 bonjour.
Attends, je reprends à cacher.
Pourquoi?
Pourquoi c'est fatigant de sourire? C'est fatigant de sourire. Pourquoi? Parce que j'ai envie de mourir. Mais je vais faire un sourire. Mais non, meurs. C'est pas fatigant de sourire. Quand t'es bien. Regardez le bébé, par exemple, il a mangé. Le bébé, tu viens de lui finir le biberon, tu l'enlèves, il fait comme ça. Il est bien. Il est plein. Il est bien.
Alors, t'es jamais bien, toi. T'es jamais plein, toi.
T'as réussi une bonne affaire. Tu dois être comme un gros bébé, t'as 30 euros comme ça. T'as pris 1 million d'euros, tu n'es pas kiff.
Ouais, mais tu sais, j'ai beaucoup de soucis, et j'ai beaucoup de soucis, j'ai beaucoup de responsabilités. Mais rien, kiffe ton million, maintenant tu l'as fait le million, kiffe ton million. T'as une bonne discussion avec ta femme, tu dis oui, tu sais, encore tout ce qu'on a, on n'a pas réglé, encore. Mais maintenant t'as une bonne discussion, t'as fait une belle soirée. Mais kiffe ta soirée, vas-y, remplis-toi de cette soirée, la prends, remplis. T'as réussi un truc avec ton fils, tu dis oui, mais tu crois que c'est réglé encore, et encore, et encore, et il y a ça. Mais t'es bête. Alors, qu'est-ce que tu fais toi? Tu pollues ton présent avec ta peur de l'avenir. Ou tu pollues ton présent avec ta rengaine du passé. Donc t'as jamais de présent. Or c'est connu que celui qui n'a pas de présent, il n'a pas d'avenir. Il a faim. Et cette logique-là, c'est ça qui régénère le réservoir. C'est ça la simcha, les gens croient à la simcha. La simcha, c'est pas de la vodka. La simcha, c'est l'occasion de grandir. C'est la satisfaction de grandir. C'est la conscience de grandir. C'est ça qui donne la simcha. Mais s'il n'y a pas de simcha, si la personne ne grandit pas, eh ben, il va falloir un valet, un paquet de vodka pour oublier tout ce qui n'est pas grandi. C'est pour ça que vodka et kavod, c'est les mêmes lettres d'ailleurs. Merci beaucoup. Le haïm. Merci. Donc ça veut dire quoi? C'est que quand la personne maintenant, elle a fait ce travail, et que ce travail en temps réel, vraiment concrètement, on se rend compte qu'il nous nourrit. Il nous remplit, d'accord? Et Hachem, Baruch Hachem, il te donne de quoi te nourrir. Comme quand tu fais un bon repas, tu fais le Berkat Amazon. Alors, normalement, la halakha, on ne peut pas faire le Berkat Amazon si on n'est pas sauvé à Berkata, Vesavarta ou Berarta. D'accord? Alors maintenant, ça veut dire que le sentiment de Zviya, d'être rassasié, c'est un sentiment qui est normal. Vous me suivez ou non? Maintenant, ou Berarta, tu béniras. Mais ou Berarta, ça veut dire aussi que tu seras béni. Donc quelqu'un, il peut dire, il est content de ce qu'il a fait aujourd'hui avec son fils. Ve'achalta, ve'savarta, ou berarta. Bénis-le. Comprenez ou non? Je suis content de ce que j'ai atteint aujourd'hui avec ma journée. Je suis content de ce que j'ai fait avec ce cours. Voilà, je dis, ben, ce soir, j'ai fait un bon cours. Il faut avoir cette sensation-là. Hier soir, j'ai fait cours aussi, à Asnières. J'ai fait un bon cours, j'étais très content. Et avant-hier, j'ai fait un autre cours.
Où vous étiez? Je ne me rappelle même plus.
À Nanterre, oui. Et jeudi soir, un autre endroit. Et demain soir, un autre endroit. Maintenant, on peut être des fous parce qu'on dit, mais c'est trop. Mais quand on devient un drogué de la satisfaction, pourquoi on ne va pas kiffer plus? C'est comme tu vois que tu gagnes, pourquoi tu ne rejoues pas?
Vous comprenez ou non?
La seule enfance avec le loto, c'est qu'en réalité, tu crois que tu gagnes, en réalité, tu perds. Mais dans la réalité, c'est le contraire. Ouais. Le type qui fait une guémara fait une deuxième. T'as qui fait une soirée, fait une deuxième. T'as qui fait un moment avec ta femme, fait une deuxième. Mais il faut avoir le kiff du positif. Cette dimension-là, c'est quoi? C'est pas kiffer pour kiffer. Le type part au Malouine, ça lui a coûté 20 000 euros. En fin de compte, ils ont fait la gueule pendant une semaine. C'est pas du kiff, ça. Le kiff, c'est quoi? C'est que tu sors grandi. Il faut que tu sens que tu sors grandi. Alors, c'est ça qui te nourrit. Maintenant, le bon Dieu, il a distribué des millions de vitamines dans la réalité. Alors, tu les prends. Là où ils sont, je vous ai raconté une fois. J'étais à Genève pour faire un cours. J'ai une personne très très riche avec une baraque de malade. Maintenant, je suis rentré, je me suis assis, j'étais fatigué, j'étais épuisé, j'avais fait 3 semaines de cours esquinté, et j'arrivais comme ça, comme un drogué en train de chercher de la drogue. Alors l'autre, il me fait visiter la maison, une baraque, on dirait un catalogue. Tu sais, genre une baraque de... Et moi, j'étais comme ça. Et il avait une pelouse, il faisait beau. Et la pelouse, elle avait une couleur verte, mais une très très belle couleur. Mais non, il avait une piscine, il avait une maison, il avait très loin. Et moi, je regarde la piscine, la pelouse. Alors, elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je regarde la pelouse. Alors, elle ne comprenait pas. Elle dit, vous voulez manger? Je dis, non, j'ai pas faim. Comme ça, j'étais en train de regarder la pelouse. Et la lumière, la luminosité de la pelouse, elle m'a nourri. L'herbe. C'est-à-dire, c'est une couleur, c'est une lumière. Ouais. C'est comme, par exemple, je ne sais pas si vous êtes sensible à ça, mais chaque endroit, il a une lumière différente. Par exemple, la lumière d'Yerushalayim, elle est spéciale. Vous vous sortez le matin de la prière, à 7h, vous voyez la lumière du ciel, la lumière de la ville, elle est différente. Ouais. C'est pas la même lumière qu'à Los Angeles ou à Milan ou à Paris. C'est des lumières différentes. C'est moi, je ne sais pas, bon, peut-être c'est un peu spécial, mais chaque personne. Maintenant, tu peux même te nourrir de la lumière. C'est pareil. Tu peux te nourrir d'un enfant. Tu prends un enfant, par exemple, qui est un bel enfant, qui est pur, et tu le regardes. Il s'est nourri. Tu prends une énergie. Tu prends un sadique, tu le regardes comme ça. Tu restes 2 heures, pour rien. Tu lui as parlé? Non, ça sert à rien. Non, je voulais juste te regarder. Tu te nourris. Ouais. Comme le contraire. Ouais. Tu prends un endroit de Ramma avec quelqu'un angoissé, qui est mal, qui est méchant, qui est vicieux, qui est tordu. Attention, parce que là, tu avales des énergies négatives. C'est marrant, mais depuis que je lui ai parlé, je suis mal, je suis angoissé, j'ai envie de mourir. C'est normal. Tu as absorbé de la négation. Des nerfs, de la rancune, du vice, du créole. Et c'est extrêmement difficile. Bon. Donc ici, la logique, c'est quoi? C'est qu'une personne, en vérité, elle a compris. Elle travaille à l'intérieur d'elle-même, à un espace. Cet espace, déjà, elle le détermine. Et ensuite, elle le construit, et ensuite, elle le préserve. Et jamais rien ne doit toucher cet espace. Jamais. C'est ça qu'à l'époque, je vous avais expliqué. L'arbre, rappelez, l'arbre. Il y a l'arbre, il y a l'écorce, il y a les branches, il y a les fruits, il y a les feuilles, et les racines. La Torah, elle dit que l'homme, il ressemble à un arbre des champs. Mais non. Les racines, ça sert à puiser de l'énergie, d'accord? Après, il y a le tronc, qui va être un redistributeur de l'énergie. Après, il y a l'écorce, qui est une protection. Après, il y a les branches, qui font partie de la structure. Après, il y a les fruits, et après, il y a les feuilles. D'accord? Maintenant, des fois, je vois des gens fragiles, je dis, vous avez craqué. Elle me dit, mais comment vous savez? Oui, elle me dit, mais comment vous savez que j'ai craqué? Je dis, c'est très simple. Vous voyez, une personne, c'est quoi les fruits? C'est ce que tu produis. C'est quoi les feuilles? C'est les attitudes, c'est les sourires, c'est les investissements, c'est normal. Maintenant, grâce à Dieu, tous les ans, les fruits, ils poussent. On va produire des fruits. On va donner des feuilles, des milliers de feuilles, des milliers de feuilles. Tu crains un arbre, tu dis, mais toutes ces feuilles, elles sont parties à la poubelle. Non, 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 ça fait partie. Bonjour, comment ça va? Allez, on se lève le matin, allez, on y va. Allez, on y va. On prend la voiture, allez, les enfants. Allez. Toutes ces attitudes-là, c'est des feuilles. Grâce à Dieu, on fait des feuilles, on fait des fruits, c'est très bien. Les branches, c'est la structure mentale. Elles te tiennent, elles te soutiennent. On peut les tailler un peu au niveau des midotes, oui, mais il faut quand même les conserver très sérieusement. L'écorce, c'est quoi? C'est le respect de soi, c'est la dignité. Ça, il ne faut pas toucher. D'accord? L'écorce. Scott. Optage. D'accord? Et le tronc à l'intérieur, là où il y a la sève, ça, il ne faut jamais toucher. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ils craquent? Parce que soit ils s'adressent à des gens qui sont ce qu'on appelle des vampires et qui vont leur prendre les fruits, qui vont leur prendre les feuilles, qui vont leur couper les branches et qui après, par amour, vont leur demander de donner la sève. Et les miens, ils vont le faire. Alors qu'il n'y a aucune mitzvah de se suicider. Au contraire, c'est interdit. Après, il y a l'autre côté. Il y a des gens qui ne leur demande rien, mais ils n'ont tellement pas confiance en eux, ils pensent que leurs feuilles et leurs fruits n'ont pas de valeur. Ils peuvent même détruire leur dignité, soi-disant par amour, et leur essence, ils vont la donner avec plaisir. Ça s'appelle de l'autodestruction. Non, jamais tu donnes ton essence. Jamais tu donnes ta sève. Parce que si tu donnes ta sève, c'est pour ça que tu craques. Quand tu craques, c'est parce que tu as donné trop. Non, maintenant, n'ayez pas peur. Hein, j'ai dit, alors, encore une fois, ils vont parler d'égoïsme. Mais non, c'est pas de l'égoïsme, encore une fois. C'est comme un Rosh Hashiva. Il te donne sa tête, il te donne ses efforts, il te donne ses nuits. Maintenant, il te dit, maintenant, je vais aller dormir. Tu diras, j'ai une question. Il te dit, maintenant, je vais dormir, maintenant. Il sent qu'il est au bout. Il va dormir. Tu dis, ah, c'est plus tout le temps. Il dort. Maintenant, il dort. Oui. Maintenant, il dort. L'autre jour, je vais faire pour une conférence. J'arrive à Marseille. Maintenant, moi, j'ai fait cours toute la semaine. J'ai pris le train pendant 3 heures. J'ai travaillé dans le train pendant 3 heures. J'arrive. J'avais faim. Ça peut arriver d'avoir faim. Moi, je mange une fois par jour. J'avais faim. Donc j'arrive pour manger. Il était 9h du soir. Je m'assois pour manger. Il y a un type qui me dit, est-ce que je peux vous parler? Mais j'ai vu. Jamais je parle aux gens avant les conférences parce que ça me déstabilise. Je garde l'énergie pour le cours. Il me dit, est-ce que je peux vous parler? Il me dit, j'ai vraiment besoin de vous parler. Alors, je savais pas quoi lui dire. Je lui dis, excusez-moi, mais moi, j'ai vraiment besoin de manger. Lui, il comprend pas. Lui, il a un problème grave, peut-être de divorce, peut-être de. Je sais pas ce qu'il a. Ouais, il me dit, mais j'ai besoin de vous parler. Je dis, oui, mais le problème, c'est que je vais manger, tout ce que je vais manger, je vais l'assaisonner avec ta âme. après je vais l'avaler Roma. Après je rentre dans la salle, il y a 200 personnes qui m'attendent, je vais vomir la Roma que tu m'as donnée pendant une demi-heure. Donc je dois garder mon énergie normale, parce que maintenant je vais manger. Je vais penser à rien, je vais pas m'angoisser, je vais pas me stresser, je vais manger. Et là, je vais dormir, et je vais bien dormir. C'est bon, non ? Mais là, je vais faire le cours, et là, je vais donner pour le cours, je vais donner pour le cours, c'est normal. Et là, je vais être avec les enfants, je vais être avec les enfants. Ah, mais il y a le souci, il y a le travail, il y a le téléphone. Non, 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 maintenant, c'est les enfants. Vous voyez cette logique-là ? C'est ça le secret. C'est comme ça qu'on réussit les choses. Mais si on pollue les choses avec les autres choses, on dit en français qu'on est dispersé, qu'on... ça veut dire que tu n'as pas de référence. Mais si tu as déjà vécu un bon moment avec ton fils, donc tu as une référence de sérénité par rapport à ton fils. Si tu as déjà construit un bon moment avec ta femme, tu as une référence de sérénité avec ta femme, avec la Torah, avec chaque chose, vous me suivez ou non ? Donc maintenant, tu vas prendre ce diamant que tu as créé à l'intérieur. Chaque facette, en fin de compte, chaque facette, ça va être le miroir d'une réalité. Regardez, un miroir, on se voit dedans parce qu'il y a une facette. Normalement, dans un diamant, quand tu tournes le diamant, à chaque facette, il va y avoir un rayon de lumière différent. Puisque là, ça reflète là, là, ça reflète là, là, ça reflète là. Et bien toi, le diamant que tu as créé, il a été, on a dit, il est apparu parce que tu l'as taillé grâce à la réalité. Ça va ? Donc ça veut dire que le pendant de chaque facette, le reflet de chaque réalité, il va se retrouver dans ton diamant. Et la facette de chaque diamant, elle va trouver son reflet dans la réalité. C'est ce qu'on appelle en français que tu es adapté à toutes les réalités. Ça va ? Donc il n'y a plus de bouleversement. C'est la différence entre avoir conscience des choses et avoir le souci des choses. Ça, on l'a expliqué déjà plusieurs fois. Mais je voudrais bien que ça vous rentre une fois pour toutes dans la tête. Puisque même moi, à force de le répéter, j'espère bien qu'un jour je vais le comprendre. Non, ne croyez pas que je ne réfléchis pas avec vous, je réfléchis en même temps que vous. Bon, j'ai peut-être un peu plus de recul, mais bon. C'est quoi l'idée ? C'est qu'un homme, il doit avoir conscience, mais il ne doit pas avoir le souci. Je dois avoir conscience de l'importance de l'éducation, mais je ne dois pas avoir le souci de l'éducation. Je dois avoir la conscience de l'argent, mais je ne dois pas avoir l'angoisse de l'argent. Je dois avoir le souci de l'avenir, mais je dois pas avoir l'angoisse. Je dois avoir la conscience de l'avenir, mais je dois pas avoir le souci de l'avenir. Je comprends pas, mais c'est la même chose. Non, 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 non. Parce que la conscience, c'est une énergie. Mais le souci, c'est une connotation que tu as mis à l'énergie. Le souci, c'est une connotation, ouais, un goût que tu as mis. C'est comme tu prends une très bonne viande. Et tu dis, tiens, je vais mettre des épices. Après, tu dis, oh, elle sent pas bon l'épice. Elle est tournée. C'est pas grave, il faut quand même mettre des épices. Mais c'est dommage, tu as une bonne viande et tu l'as pourrie pour une épice à 2 centimes. Tu as pourri un kilo de viande à 20 euros. Tu dis, mais il faut bien mettre des épices. Et bien, il y a des gens, ils épicent leur vie comme ça. Mais l'épice, c'est de l'aroma. Alors, c'est dommage. La plus belle des maisons, tu mets de l'angoisse dedans, elle devient pourrie. La plus belle des femmes, tu la regardes mal, elle devient pourrie. Le plus beau des enfants, tu as le soupçon qu'il est pourri. Encore hier, une jeune fille qui me téléphone pendant une heure, et en plus elle appelait de loin, elle m'a dit, ah voilà, j'étais avec quelqu'un pendant 4 ans, après on a arrêté pendant 1 an et demi, après on a repris pendant 3 mois. Je dis, mais c'est quoi le problème ? Elle me dit, bah, je le soupçonne, je n'ai pas confiance, et puis là il a eu beaucoup d'amis avant moi, alors j'ai regardé son téléphone, et j'ai trouvé qu'il avait des amis qui parlaient, alors ça m'a énervé, tout ça, je lui ai dit, alors mais il a craqué, il ne veut plus me voir. Il me dit, est-ce que vous pensez qu'on peut reconstruire ? Je dis, tant que vous, je ne sais pas ce qui s'est passé avec votre père, parce que votre père, il a beaucoup valdingué, je ne sais pas ce que vous avez avec les hommes, que vous pensez que c'est tous détendus, mais tant que votre image de l'homme, elle ne sera pas réglée, chaque fois que vous verrez quelqu'un, le soupçon, vous allez le remettre. Or, le soupçon, ça détruit la confiance. Tu dis, oui, mais hein, vous savez comment ils sont les hommes ? Je dis, mais d'accord, alors ne vous mariez pas. Ah, mais j'ai trop besoin d'être avec quelqu'un. Je dis, bah alors. Et ça, c'est une grande question. Pareil que parce qu'il n'y a pas de différence entre s'éduquer et éduquer l'enfant. L'éducation, c'est de savoir ouvrir les yeux, ou l'éducation, c'est de savoir fermer les yeux. attention, Baba. Parce que quand tu sais fermer les yeux, ça veut dire que tu crées un espace d'existence pour l'autre. Quand tu sais ouvrir les yeux, ça veut dire que tu es conscient de ce qui arrive à l'autre. Alors je te dis, moi, il faut tout le temps garder les yeux ouverts. Pourquoi ? Parce que la conscience, il faut la voir. Maintenant, fermer les yeux, ça veut dire quoi ? Tu sais, quand tu dis, vous savez, vous pouvez lui donner les yeux fermés. Ça veut dire que les yeux fermés, c'est pas que tu as les yeux fermés. Les yeux fermés, ça veut dire que tu as confiance. Donc, tu dois avoir la conscience avec la confiance, c'est-à-dire sans le souci. T'as compris ou non ? C'est ça le titre de la conférence.
C'est la peur de l'avenir.
Par exemple, c'est la peur de l'avenir, c'est le manque de confiance en soi, c'est les doutes qu'on peut avoir, c'est les peurs, c'est les malaises, c'est le côté psychiatrique des choses. C'est toutes les connotations qui n'ont pas l'intérêt que tu mets à l'intérieur d'une chose. Alors c'est une lutte qu'il faut avoir pour pouvoir le préserver. Donc on a dit... Et c'est ça, j'espère que maintenant avec ça vous comprenez un petit peu le sujet de la conférence. Oui, on a dit que comment quelqu'un il va aborder sans souci, sans souffrance. Parce que la souffrance en fin de compte, elle n'est pas objective la souffrance, puisqu'elle dépend de la manière que j'ai d'aborder la réalité. Si je l'aborde avec immaturité, ça s'appelle de la souffrance. Ouais. Et si je l'aborde avec maturité, ça s'appelle une étape nécessaire. Donc il n'y a plus de souffrance. Et le souci, c'est pareil. Le souci, en fin de compte, c'est pas objectif, puisque c'est ma peur. C'est ma peur qui me donne le souci. C'est le manque de confiance en moi qui me donne le souci. C'est le manque de confiance que j'ai en Dieu qui me donne le souci. Donc en fin de compte, elle n'est pas objectif le souci. Donc c'est une attitude. Maintenant, cette attitude, on a dit qu'elle vient de quoi ? Parce qu'il n'y a pas le contrepoids. Donc si ça bouge, c'est qu'il n'y a pas le contrepoids. Comme une statue qui est vide à l'intérieur. Mais elle est énorme. Tu peux la faire bouger. Tu fais pom, mais elle ne bouge pas. Hein. Mais tu crées un mouvement. Et un peu plus, un peu plus, un peu plus. Elle se met à basculer. Tu dis, mais comment tu peux faire basculer un truc de 10 mètres de haut ? Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai fait bouger le vide qu'il y a dedans. Le vide qu'il y a dedans, je l'ai fait bouger. Mais quand la chose, elle est pleine, elle ne bougera pas. Elle ne bougera pas. Tu veux ou non ? Donc si la vie, elle te bouleverse, c'est qu'il y a du vide à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on a dit au début du cours, que toi, tu ne peux pas maîtriser les événements, mais tu peux maîtriser l'intériorité. Tu vois ce rocher là qui est au bord de la mer ? Ça fait 4000 ans que les vagues tapent dessus. Il est toujours là. Par contre, la bouteille en plastique, elle tape ici, elle part de côté, elle revient... Elle part au large, elle revient sur la plage, elle repart. Alors toi, t'es comme le rocher ou comme la bouteille en plastique ?
Le rocher.
J'espère. C'était pas une question. D'accord. Donc c'est quoi l'idée ? Mais c'est pas grave, c'est bien. C'est spontané. Donc c'est quoi l'idée ? C'est qu'une personne, elle comprend ça. Que c'est ça ce qu'elle veut être. Tout le monde veut être le rocher. Oui ? Mais il y a beaucoup qui sont des bouteilles en plastique. On réagit, ouais. On a dit non, quelqu'un il fait ce travail, donc on a dit comment, parce qu'il acquiert le respect de lui-même, parce qu'on a dit parce qu'il a rempli son réservoir de joie, parce qu'il a compris ce qu'il vaut vraiment, parce qu'il s'entoure de gens qui comprennent sa valeur, donc il fonctionne dans une logique de confiance, parce qu'il arrête de polluer sa réalité avec ses peurs, avec ses angoisses, parce qu'il arrive à voir la longueur du projet et non pas l'événement au niveau ponctuel. Tous ces éléments là quand ils sont réunis de manière dynamique, c'est-à-dire qu'il puise des éléments, et en même temps, de manière passive, c'est-à-dire qu'il remplit, il est conscient de ce qu'il remplit à chaque fois. Alors c'est ça qui amène à Meilleur Fatah Nefesh. Et d'un côté, c'est une vision globale, ça c'est la relation que tu entretiens avec Hachem, et d'un autre côté, c'est une vision qui est ponctuelle, parce que à chaque instant, eh ben, tu es capable de profiter de la situation, pour apprendre. Oui, ça va, c'est clair. Alors bizarrement, ils ont dit, les scientifiques, que dans la tête d'un homme, il y a deux hémisphères, vous savez. Les neuropsychiatres, ils ont dit ça. Il y a un hémisphère qui voit le monde dans sa globalité et un hémisphère qui voit le monde dans le détail. Maintenant, quand tu vois le monde dans sa globalité, tout est lié, tout est bien, tout est fort, tout est grand, tout est extraordinaire. C'est celui qui regarde tout le puzzle entier. Mais il n'est pas encore construit. Oui, mais il sait qu'il va le finir, le puzzle. Donc il prend la sérénité de son but pendant la fabrication du puzzle. Ça va ? L'autre côté, malheureusement, lui, il est traumatisé par le fait que le puzzle, il est mélangé. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il dit, le travail n'est jamais fini. Les enfants, c'est pas ce que j'attendais. Le magasin, c'est pas encore assez. Ma femme, elle m'a encore fait une erreur. Mon mari, il m'a encore déçu. Alors lui, il voit que le puzzle cassé. L'autre, il voit que le puzzle fini. Mais quand tu as acheté le puzzle, l'image, elle était complète sur la boîte. Ouais. C'est ça que tu dois avoir dans la tête. C'est qu'est-ce que tu vas faire avec ton couple. C'est pas qu'est-ce que tu vis au quotidien. C'est qu'est-ce que tu vas faire avec ton couple. Et comme tu l'inscris dans une logique globale, alors après, les événements ponctuels, tu peux les noyer. Et grâce à Dieu, on va vers le global. Mais si toi, tu n'as pas de vision globale, et tu regardes que le ponctuel, et tu cumules les déceptions, après tu nourris ta rumba. Alors au début, ça fait une dépression, et après, ça peut s'appeler une maladie. C'est normal. Puisque tu nourris ta rumba. Oui. Donc fais le contraire. Que quelqu'un, maintenant, qu'il a construit cette référence de sérénité, qu'il a construit ce réservoir de joie, et après, comme il le régénère, alors non seulement qu'il est producteur de joie, il est régénérateur de joie, et il est générateur de joie. Et plus il va en produire, et plus on va lui donner l'occasion d'en produire. Comme un épi de blé, vous prenez un grain de blé. Ouais, vous le plantez. Il pousse un épi. Sur l'épi, il y en a 24. Les 24, vous les plantez. Ils en font 100. Les 100, vous les plantez. Ils en font 10 000. C'est exponentiel. Donc, ça veut dire que d'exister, non seulement ça ne coûte pas, mais en plus ça rapporte. Alors que les gens, au contraire, ils disent, oh, vous savez, faut pas trop exister, faut pas trop se donner, faut se préserver, faut se conserver, faut se kiffer, faut se... Au fond de compte, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'enterrent eux-mêmes, ils se nourrissent plus, ils se conservent dans l'aigreur de leur haine et de leur rancune. C'est pour ça qu'ils deviennent des cornichons. Puisqu'ils se conservent dans la vie aigre. Ils ont une vie aigre. Mais le contraire, quelqu'un qui a une vie douce, vraiment douce, pas aigre doux, ouais, vraiment douce, oui, alors il va être générateur de joie et de supra. Alors c'est impossible qu'un homme, il ait de l'angoisse, puisqu'avec son coup, il est avec lui tout le temps, ouais, ses parents l'aiment, et lui-même, c'est une personne extraordinaire. Où est le problème? Ça va? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bon, il n'y a pas de questions. Donc, pour les personnes qui sont encore réveillées, donc, on va demander que le cours soit dédié, comme tous les cours de cette année, les Elul Nishmat de mon père Abraham Shimon Ben Simcha, Zichronovacha, et aussi pour Eliyahu Ben Aisha, un oncle qui est disparu.
Amen.
Et s'il y a d'autres personnes, ah, moi, c'est toujours une cité de personnes.
Max
Kamfraj. Il y a une jeune fille aussi, Julia.
Josie
Ben Julia.
Amen.
Anna Batestel. Amen. Les gens disparus. Ouais. Anna Batestel, c'est pas ça. Lisa Bat Rachel.
Amen. Chaim Ben Sarah.
Chaim Ben Sarah.
Amen.
Rav. Eliyahu Darush. Arav Eliyahu Darush. Shan.
Darshan David.
Amen. Ah.
Khatif
Bat Nazir. Latif Bat Nazir. Kachem, il est dans le Shabbat. On va demander aussi que le cours soit dédié pour la réfouche et les mains de tous les malades d'Israël. Et
Amen.
En particulier pour Simcha Bat Flecha. Pour Esther Bat Flecha. Pour Hana Bat Aziza.
Amen.
Pour Rav Azimov. Pour Rav Obadiah Yosef. Pour Rav Eliashiv. Rav Mordechai Eliyahu. Rav Yosef Chaim Ben Simcha Citruc.
Avraham
Moshe Ben Myriam.
Amen.
Amen. Allegra Arekan.
Amen.
Amen. Léa Batmazal.
Amen.
Qu'Hachem leur envoie à tous une réfléchie. Donc le prochain cours sera avec Hachem le 23. Le 21
décembre.
Le 21 décembre.
La place de l'autorité dans l'éducation.
Oula, il faut que je vienne à ce cours. C'est très important. Bonne continuation.
Merci.